Salut à tous et à toutes. Bienvenue ici au studio 12 de la Voix de l'Amérique. Nous sommes basés à Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. C'est sur la VOA qui est partenaire de cette Basketball Africa League saison 4. Eh bien, ce soir, un seul match au programme. Cape Town Tigers ne va pas jouer ce soir, mais plutôt Fus de Rabat qui va jouer contre Petro du Rwanda. Souvenez-vous, eh bien, c'était le match d'ouverture de cette Basketball Africa League saison 3. En studio ici avec moi, Cheikh Thiero et bien évidemment à la réalisation. Des nous accompagne ce soir. En tout cas, merci les gars, Cheikh. C'est un plaisir de te retrouver.
Ouais, c'est un plaisir de retourner au studio Yacouba pour parler de la passion du basketball africain quand même. Et c'est un bonjour.
Écoute, ça a commencé depuis le samedi dernier, samedi 9 mars. Les derniers matchs vont se jouer ce dimanche 17 octobre là, Cheikh. Il y a eu ce malheureux incident avec l'équipe du Burundi, Dynamo Basketball Club. On va pas revenir là-dedans parce que c'est un peu politique.
Oui, absolument.
Mais c'est quand même dommage pour les joueurs qui sans doute auraient voulu jouer cette compétition-là jusqu'au bout.
Absolument, Yacouba. Les joueurs n'ont rien à faire avec ces genres de trucs. Quand ils regardent, ce n'est pas seulement des joueurs qui viennent du Burundi, Yacouba.
C'est des joueurs américains. Il y a des Américains.
Il y avait des joueurs qui viennent de la RDC même aussi. Et ça pouvait leur donner beaucoup de chances de vraiment avoir la chance d'être vus par les grandes équipes comme la NBA G League, la NBA et puis d'autres saisons en Europe, mais ça n'a pas été le cas. Bon, dommage pour les joueurs, mais les trucs politiques ne doivent jamais être rentrés dans le sport, Yacouba, comme tout le monde.
C'est dommage. Et donc, voilà, on le sait, la politique n'est pas autorisée dans le sport, que ce soit en basketball ou encore en football ou dans d'autres disciplines. Ouais. Malheureusement, cet incident est arrivé. Donc, Dynamo Basketball Club du Burundi a été exclu de la compétition après deux forfaits. Ouais. L'équipe avait joué lors du premier match face à Cape Town Tigers et Dynamo l'avait remporté ensuite.
Absolument.
Ils ont refusé de jouer leur deuxième match, ils ont aussi refusé de jouer leur troisième match. Et donc, conséquence, la raison, vous la connaissez, elle est simple. Ils ne veulent pas porter de maillot où c'est inscrit « Visite au Rwanda » du fait des bisbilles politiques entre le Rwanda et le Burundi, mais pas que. Écoutez, c'est dommage, mais la Basketball Africa League
continue.
C'est ce qui est essentiel. Nous, on veut voir du beau jeu sur le parquet. Alors, Cheikh, ce soir, il y a un seul match, je le disais, Fus de Rabat, Petro de Luanda. Avant de rentrer justement dans les analyses par rapport à ce match-là, on va juste rappeler que au classement, les Marocains de Fus de Rabat, Fus c'est tout simplement FIFA Union Sport de Rabat, ont deux victoires en deux matchs parce qu'ils ont laissé tout tomber, tout ce qui concerne bien sûr Dynamo Basketball Club du Burundi, suivi par Petro de Luanda. Est-ce que toi, si on te disait qu'à ce stade de la compétition, Petro serait deuxième derrière Fus, tu allais croire?
C'est à croire parce qu'il peut être deuxième.
Avant la compétition, c'était pas évident.
C'était pas évident, mais tu sais que le foot s'est séparé déjà de tout le monde maintenant, Yacouba. Et c'est leur première fois, ils se sont séparés de tout le monde et je suis pas beaucoup surpris parce qu'ils ont des joueurs qui sont très bien. On a vu la même chose
avec Jordan.
Aliou Diarra aussi, quand il était avec les Stars, ils se sont séparés de tout le monde à un niveau du jeu. Mais je pense que Cape Town, ça va être trop difficile parce que Petro, ils vont rencontrer aussi.
De toute façon, Cape Town va rester troisième. Encore deux matchs. Cape Town a joué, donc c'est le basketball, tout est permis. Mais même s'ils restaient troisième et qu'ils gagnaient leurs deux matchs, après il y a une meilleure place de deuxième
que,
à aller chercher. Et donc,
Je pense que c'est quelque chose, Yacouba. C'est déjà qui va se qualifier dans
cette conférence. De toute façon, les Marocains sont déjà qualifiés.
Absolument.
Les Angolais aussi.
Donc, on va voir le Petro. On va voir si Petro va être en mesure de vraiment se venger aujourd'hui parce que la fois dernière,
ils ont été battus
jusqu'à la fin. Donc, c'est une opportunité pour eux. Et de Carlos Moraes et ces jeunes gens, Petro, qui doivent vraiment montrer aujourd'hui que l'Angola a toujours quelque chose à dire, avec cette équipe de foot. Mais ça va être difficile parce que cette équipe de foot, Yacouba, ils sont venus déterminés, très très bien déterminés pour vraiment aller au fond avec cette Ligue de Basketball Africa League saison 4.
Alors, justement, quand on regarde cette équipe de foot, tu l'as dit, on a vu lors du premier match, les Marocains se sont imposés devant les Angolais. Est-ce que ça t'a surpris?
Bon, ça m'a pas beaucoup surpris.
Je savais.
Ça m'a pas beaucoup surpris parce que l'année passée, Yacouba, notre remarque du début jusqu'à maintenant, Yacouba, nous avons vu que cette ligue-là est en train de vraiment, les gens sont en train de se préparer. Ça se voit.
Ça se les voit. Les équipes-là arrivent prêtes. Ça, absolument, au moins, il faut le reconnaître.
Absolument. Le continent, toute la jeunesse veut se voir sur ce planche de la NBA ici maintenant en Afrique, Yacouba. Donc, quand il veut se voir là-bas, il faut beaucoup travailler. Donc, le travail, les résultats, ça se voit depuis au début jusqu'à maintenant. Tu vois maintenant qu'il y a une équipe qui va venir maintenant, qui est nouveau. Tu penses que c'est une... ils sont en train d'observer. On avait même l'année passée, quand on a demandé les stades de Malien, les joueurs de stade Malien, ils ont dit qu'ils voient, ils regardaient ces matchs-là depuis
eux
la
tous,
première saison.
Eux tous, ils suivaient.
Eux tous. Ouais. Donc, ils voient les points faibles d'une équipe, ils ont les images. Maintenant, on voit les matchs, on sait qui ils ont. Et puis, on connaît les joueurs, ce qu'on a entrevu là-bas. Donc, ça va pas être facile, Yacouba. Si tu vois une nouvelle équipe ici, comme on avait avec les Dynamo Club aussi, tu as vu comment ils ont damé et l'équipe. Il y avait des très bons joueurs dans cette équipe nouvelle aussi qui pouvaient se qualifier avec les deux nouvelles équipes qui sont rentrées dans l'équipe, ouais, pouvaient se qualifier
donc,
pour aller aux prochaines étapes.
Tu estimes que si le Dynamo Basketball Club du Burundi était toujours dans la compétition, c'est que peut-être actuellement il avait réussi à bousculer, par exemple, Petro. Peut-être
sans doute.
C'est un peu douteux, mais yeah. Petro, elle allait réussir quand même
sans doute à
bousculer cette équipe
anglaise. Sans doute, Yacouba. Le premier match, le seul match qu'on a vu, il faut regarder le match.
Tu es autant convaincu.
Non, parce que j'ai vu un talent à eux qu'on appelle ça quand un joueur a faim. C'est ce que je vis avec les équipes là, les nouvelles équipes là. Ils sont trop fins, Yacouba. Quand ils viennent dans le domaine et ils veulent se donner, ils veulent se montrer qu'ils sont là et donc ils veulent vraiment donner tout ce qu'ils font. Moi j'ai vu ça avec l'équipe Dynamo. Surtout avec les pivots là. On a Ali qui connaît bien le pivot. Je parlais avec lui sur le
Ali
pivot,
qui va nous rejoindre tout à l'heure. Surtout.
Absolument. Ouais. Donc le pivot là m'a vraiment impressionné, Yacouba. Quand je l'ai vu, la manière dont il danse au cerceau, c'est comme si quelqu'un. C'est comme si un Dwight Howard dans son prime.
C'est un peu à la Ali ou Diarra.
Absolument.
Quoi.
C'est comme un Dwight Howard dans son prime.
Justement, parler de dunker, depuis le début de la compétition jusqu'ici, on voit des équipes qui sont très organisées du côté, bien sûr, des Marocains ou des Angolais ou encore du côté des Captain Tigers, même s'ils perdent jusqu'ici. Mm-hmm. On leur reproche surtout leur jeu individuel. Quand tu observes des joueurs comme Aliou Diarra attaquer le cerceau,
ouais,
peu importe la personne qui est en face,
ouais,
qu'est-ce que cela suggère comme message ou qu'est-ce que cela envoie comme message à l'adversaire?
C'est la confiance, Yacouba.
Ouais.
La confiance d'un joueur, ça compte beaucoup. Un joueur de basket, tu vois, Aliou Diarra a sauté d'un endroit et il ne savait même pas qu'il pouvait mettre. Mais c'est des trucs qui montrent qu'il peut le faire. Donc, moi, tu as regardé ça, quand le premier match qu'ils ont joué, quand ils sautaient dans un endroit, moi j'ai dit, mais ils peuvent mettre ça. On voit la NBA, les gens font les trucs comme ça parce qu'ils voient qu'ils peuvent le faire. C'est la confiance, Yacouba. Le jeu, c'est 90% la confiance. Comment est-ce que tu es confiant de toi? Mais la confiance, ça ne peut pas venir si tu ne travailles pas. Parce que quand tu travailles, c'est toi-même, tu sais ce que tu fais. L'autre là, tu sais très bien que l'autre là n'est pas en train de faire ça. Les entraînements, courir, saut. Et puis quand tout le monde n'est pas en train de te regarder, toi, tu es en train de faire des choses qui t'améliorent dans ton domaine. Tu connais ton point faible. C'est ça qui crée la confiance. Donc quand tu vois un joueur comme Aliou Diarra, moi, je ne suis pas surpris, Yacouba, parce que c'est des jeunes qui viennent de loin. Ils ont confiance. Ils savent que c'est la seule opportunité de vraiment sortir de la pauvreté ou bien de quelque chose qui les tend très cher dans la vie. Donc, moi, je vois ça dans beaucoup de joueurs qui sont oui, désirés. On voit ça à Carlos Moïro là aussi.
Oui, on voit ça très souvent dans cette équipe de FUS. Alors, Malik Dao, on va l'écouter peut-être après, mais il disait en temps que ce qui est impressionnant avec cette équipe de FUS, c'est de voir des garçons qui ont évolué ensemble depuis qu'ils étaient tout petits à Rabat ou encore, disons, de façon plus large au Maroc. Ils ont été rejoints par des joueurs comme Jordan, mm-hmm, ou encore Henrik, les deux Américains.
Américains.
Il y a aussi Aliou Diarra, il y a ce jeune de 17 ans de la NBA Academy au Sénégal.
Mohamed, yeah.
Justement. Et donc, il y a une certaine alchimie, il y a une certaine compréhension entre ces joueurs-là. Et quand ils jouent, on sent vraiment que c'est des garçons qui se comprennent, même les yeux fermés, ils se retrouvent. Cheikh, toi qui as joué au basketball, comment on travaille ça du côté d'un coach?
Bon, le côté du coach, il faut jouer collectif, Yacouba. Et il faut vous entendre entre vous. Et puis le coach doit savoir les points forts et les points faibles de tout un chacun. Le coach sait quand il y a un pivot comme Lopez José de l'équipe Petro, il sait comment il faut gérer ça. Il sait que si tu mets un Aliou sur lui, il va lui faire fatiguer. Donc ça, c'est la connaissance du jeu, Yakuba. Et en général, quand tu joues le match en tant que joueur, tu vois pas beaucoup en dehors. C'est nous-mêmes qu'on regarde, nous regardons le match.
Bien évidemment, c'est ceux qui sont dehors qui vont voir.
Absolument, on voit les vrais problèmes. Mais les joueurs qui sont dedans, ils voient pas ça. Souvent même, quand tu as l'impression qu'ils courent pas sur le terrain, quand tu regardes. Mais si tu es là-bas, de leur côté, tu es fatigué.
Quand tu es près du parquet, tu les vois courir.
Tu les vois courir.
Là, tu comprends que y a quelque chose qui se passe
maintenant,
sur le terrain.
Ouais, parce que même, ils sont dépassés, parce qu'ils sont en train de donner tout. Mais quand tu les regardes à la télé, tu penses que c'est facile. Mais quand tu es là-bas, tu vois pas beaucoup. Tu es en train de compétir. Tu es en train de voir les situations devant toi. Bon, ça, c'est un avantage qu'un coach doit savoir dans le match. Ça compte beaucoup, Yakuba. C'est le coach. Qui voit les trucs en dehors comme nous, on voit en dehors du terrain. Alors,
justement, on va se rappeler que lors du premier match, gagné bien sûr par Fils de Rabat devant Petro de Luanda, on avait fait cette observation-là. L'équipe angolaise jouait surtout dans une défense en zone, tandis que l'équipe de Fus, l'équipe marocaine, était en train de défendre individuellement. En tant que coach, bien sûr, de l'Angola s'est rendu compte, il a essayé de rectifier le tir.
Absolument.
Est-ce que c'était pas trop tard?
C'était trop tard parce que on sait que ces genres d'équipes aussi qui marquent individuellement, Yakuba, ils sont sur les jambes. Il y a quelque chose qui s'appelle press break. Press break, c'est quand les gens te prennent jusqu'au-dessus de ses cerceaux. Il y a une manière aussi de breaker ça.
On a vu, ils défendaient très haut.
Très haut.
Les Marocains défendaient très haut. De sorte que c'est difficile pour les Angolais d'approcher le cerceau.
Absolument. Donc quand c'est comme ça, et quand tu fais ça, quand ça saute, ça peut créer des trous aussi parce qu'il faut avoir des gens qui peuvent se déplacer. Ça a des avantages, ça a des avantages. Parce que tu as des pivots qui ne peuvent pas se déplacer mieux rapide que les pivots qui sont sur les jambes. Donc, ça va créer un trou. Et même si ça continue comme ça, ça va fatiguer les joueurs. Les joueurs, quand tu es fatigué, Yagouba, le talent part.
C'est le corps humain, il faut écouter son corps.
Absolument. Donc, c'est là l'âge compte. You know, Yakuba, c'est là l'âge compte, c'est là d'autres choses comptent là-bas. Bon, dans ce domaine quand même, c'est trop difficile
de tricher.
C'est trop tard. C'était trop tard quand ils ont commencé à faire ça. Et ils étaient déjà aux 10 points de retard. Donc, quand ils commencent à faire deux contre-attaques comme ça, tu vas dire, si on n'arrête pas ce système-là, ils vont encore creuser de l'écart. Donc, il était obligé de jouer. Tu vas le faire jouer, toi, ton jeu. Mais tu vas le faire jouer toi ton jeu. Donc c'est ça qui compte beaucoup dans le domaine du basket. C'est ça qu'on a vu avec cette équipe des Fous du Rabat qui domine tous les matchs depuis le début.
Alors donc on a dit, il reste encore deux matchs à Cape Town Tigers. Je rappelle que Cape Town Tigers ne joue pas aujourd'hui parce qu'on s'est retrouvé au départ dans une conférence de quatre équipes. Il n'y a plus que trois dans la mesure où Dynamo Basketball Club du Burundi a été exclu de la compétition après deux forfaits. Et donc il ne reste plus que Fus de Rabat, Petro de Luanda et Cape Town Tigers, les clubs hôtes. Je le disais, Cape Town a perdu ses matchs jusqu'ici. Il leur reste deux rencontres à disputer contre Petro, mais aussi contre Fus de Rabat. Est-ce qu'ils ont un tout petit peu de chance?
Ils ont la chance, Yakuba. S'ils arrivent à vraiment gagner un match, ça va beaucoup leur donner la chance de vraiment se qualifier. Comme tu l'as bien dit, les troisièmes de chaque poule vont essayer de se qualifier. Et bon, s'ils arrivent vraiment à gagner une équipe, bon, tu sais, le basket, il n'y a pas les rangements. Donc,
c'est ce qui fait que c'est intéressant, justement.
C'est pour qu'il y a des matchs.
C'est le parquet qui décide.
C'est pourquoi il y a des matchs, on les fait en même temps. Et pour éviter des trucs comme ça.
Justement, pour éviter les arrangements avant ou après.
Si tu veux que cette équipe gagne, toi, tu le laisses te battre, tu joues ton banc. C'est pourquoi les matchs, souvent, ils les font jouer en même temps, dans les mêmes heures, comme ça. On ne peut pas décider quoi.
On ne peut pas tricher.
Donc, moi, je pense que cette équipe, il y a sans merci. Il n'y a pas de merci dans ce truc-là, parce que tout le monde veut venir aux États-Unis.
Les gars, ils jouent quand même à domicile devant leur public, devant les autorités. Est-ce que vous allez permettre qu'ils pètent tous les matchs, ne serait-ce que gagner peut-être un seul match pour l'honneur?
Bon, ils ont la chance. À rappeler les gens que Yakuba, ils ont des talents aussi.
Ils ont des très bons joueurs.
Ils ont des très bons joueurs qui n'ont pas de l'aide derrière.
Selkelo,
absolument.
Qui n'est pas mal. Il y a Selepe aussi qui joue très bien.
Absolument.
Mais Selepe, justement, il a été verroué lors de les derniers matchs.
Absolument.
Parce qu'ils ont compris que le danger pouvait venir de lui.
Absolument. Donc, c'est pourquoi c'est un jeu collectif, Yakuba. Le jeu ne peut pas se limiter à un seul joueur. Tu vois, il faut avoir plusieurs joueurs qui peuvent faire les jeux comme toi, comme pour toi. Et il faut avoir un plan A, il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan C. Et puis, il faut avoir ton A game, ton match A et ton match B. Quand une équipe a son match B, ils n'ont pas la chance. Mais quand une équipe a son match A, c'est fini.
Parlant de A, B, tu sais, ça me rappelle quelque chose. La profondeur du banc. On en a parlé et on le répète tous les jours. On ne peut pas jouer une rencontre ou encore, si vous voulez, une compétition de basketball, ne serait-ce que deux matchs avec cinq majeurs et puis il n'y a plus rien sur le banc. Alors, du côté de la, justement, profondeur du banc, quand tu compares l'équipe de Maroc, Fus de Rabat, à l'équipe de Petro de Luanda. C'est vrai, du côté de Petro, il y a beaucoup d'expérience, il faut le reconnaître, même si du côté du Maroc aussi, il y a de l'expérience. Et rappelez-vous, hein, Fus de Rabat a été champion au Maroc pour la dernière fois, c'était quand en 2000, il y a 19 ans, avant qu'il ne soit champion, pour se qualifier pour cette... Il jouait encore la route ou bien elle avant de se qualifier pour cette compétition-là. Alors justement, quand tu prends une équipe comme Petro de Luanda qui se qualifie automatiquement pour la Basketball Africa League, du fait qu'elle fasse partie des 6 pays qui sont désignés, pas seulement comme des, pas comme des franchises, mais comme des pays où les champions sont automatiquement qualifiés pour la balle, est-ce que ce n'est pas un avantage de passer par cette route ou bien elle-là avant d'arriver à la compétition?
C'est un avantage, Yacouba, mais aussi il faut s'attendre, il faut attendre qu'il y a les joueurs qui vont venir essayer de prendre ton déjeuner. Et si tu ne fais pas attention, ils vont venir prendre ton déjeuner et puis ça va être quelque chose pour toi qui va vraiment être amer. Parce que moi, j'ai vu ça avec des équipes qui sont venues, qu'on a vu ça avec...
Alors, Cheikh, on a Ali en ligne. Ali, bien sûr, qui suit le basketball avec nous. Ali, bonsoir si tu nous entends et dis-nous là où tu es.
Je vous entends très bien, je suis à Washington D.C.
Ali, tu es en train de nous mettre la pression. Okay. Tu es à Washington D.C., ça veut dire quoi? Pourquoi tu n'es pas resté avec nous?
Non, parce que je suis un peu pris par mes activités. J'ai eu l'honneur de recevoir mon frère Cheikh au téléphone.
Ouais.
Et je lui ai dit, écoute, je suis disponible pour participer et puis donner mon expertise sur le sujet du sport et du basket en général.
Bienvenue Ali dans cette émission que tu connais parce que de par le passé, tu as eu plusieurs occasions d'être avec nous dans les pre-games ou encore dans l'avant-match, pendant le match et après le match. On a pris beaucoup de plaisir à t'avoir dans le studio ici. Merci. Alors, les matchs de cette conférence à Kalahari se jouent à Pretoria. Ils ont commencé depuis le 9 mars dernier. Il reste juste quelques jours avant qu'on ne boucle les matchs de poule de cette conférence à Kalahari. Dis-nous déjà, comment tu vois de près cette Basketball Africa League saison 4 cette année?
Bon, moi j'ai eu l'honneur de voir, de rencontrer la personne laquelle qui a commencé le Basketball Africa.
Amadou Diallo Fall, que tu connais très bien.
Oui, Amadou Diallo, j'ai eu une conversation très charmante avec lui par rapport au basketball et puis en Afrique en général. Et moi, je l'ai demandé, est-ce qu'il pense qu'on peut venir aller plus grand que ça, que c'est possible? Pourquoi? Parce qu'on doit attirer les investisseurs qui vont venir pour pouvoir créer des équipes. Et par exemple, la NBA, on a des investisseurs qui ont investi dans chaque équipe. Et on arrive à grandir le parquet de basketball à la NBA. Et maintenant l'Afrique, ce que l'Afrique doit faire, c'est venir inviter ses investisseurs de venir à chaque pays où on a assez de moyens et puis on a des moyens pour construire des stades. On doit venir le faire la même chose et puis avoir une gouvernance similaire que la NBA. Et ça va veut dire donner beaucoup d'accès à la jeunesse africaine qui cherche à jouer au basket. Et en plus, des transferts entre les équipes africaines avec les équipes de la NBA vont veut dire être facile à le faire. Et je suis en train de constater que le boulot qu'ils ont commencé a été veut dire très bien fait. Et je suis très heureux d'avoir ce monsieur avec moi pour quelques heures.
Oui.
Et alors, Ali, je vais le supporter, quoi.
Ali, alors, quand tu constates, quand tu regardes, si tu veux, le début de cette Basketball Africa League saison 4 cette année, on est parti de la saison numéro 1 qui a commencé en 2021, on est à la quatrième saison. Est-ce que tu sens de l'évolution?
Bien sûr, il y a assez d'évolution. Il faut comprendre aussi, ça a encadré beaucoup de jeunes. Donc,
bien
il y a
évidemment.
Des gens qu'on a vus qui ont commencé la première saison et il y a certains qui sont encore là et il y a certains qui vont venir aller jouer dans la NBA. Donc, on ne peut pas dire que non, il n'y avait pas eu des évolutions, mais j'ai écouté entre toi et Cheikh, parlons de la fatigue et tout.
Ton ami Cheikh.
Il faut pas dire la fatigue, c'est la vieillesse. Donc, j'ai constaté que
Ali, qu'est-ce que tu veux dire?
Il y a certains vieux dans les équipes là. On ne va pas voir d'ici deux, trois saisons qui vont venir à la future, quoi. Donc, il faut comprendre. On doit aussi comprendre que la jeunesse, on doit faire, veut dire, d'une manière où
d'une autre.
Ceux qui vont partir doivent, veut dire, donner l'opportunité à la jeunesse, ceux qui ont 16 ans, 17 ans. Ce jeune doit venir s'améliorer et connaître le jeu et connaître le système en général de la NBA. Donc c'est ce qui fait que je suis très très content et l'évolution de ce jeune est important, pas seulement pour la NBA Afrique, mais pour l'Afrique en général.
Alors Ali, quand tu parles de vieillesse, c'est vrai qu'il y a un garçon de Petro de Luanda comme Carlos Moraes qui a 38 ans et qui mène cette équipe-là. Mais écoute, quand on regarde de près ici à la NBA, LeBron James, il n'a pas 28 ans.
Bien sûr, mais écoute, la NBA c'est un business et je pense que la NBA Afrique sera un business aussi. On doit chercher qui va venir être au-dessus de cette ligue après le départ de Carlos ou soit LeBron James. C'est pour cela qu'on est parti, on a pris par exemple Victor Wembanyama.
Wembanyama, oui.
Wembanyama, ou soit mon frère du Nigeria qui joue à l'autre à Milwaukee, Giannis Antetokounmpo.
Oui.
Vous voyez? Donc, l'évolution de Giannis Antetokounmpo a commencé depuis 2013. Et maintenant, il est un champion et il est à la hauteur de prendre cette équipe à la hauteur où LeBron a pris.
Alors,
donc, on doit chercher ce balance-là.
Alors,
c'est pour cela que j'ai dit Carlos. Maintenant, Carlos doit me dire dans la tête que, écoute, je suis, je veux dire, prêt à partir, mais je dois me dire, m'assurer que quelqu'un d'autre va prendre ma place et aller de là.
Bien évidemment, Carlos donc doit apporter toute son expérience et son expertise à ces jeunes qui l'entourent. Alors, Ali, il y a un match ce soir. Petro de Luanda qui joue contre FUS de Rabat. Petro qui a sa 4e participation et qui est là depuis le début de la compétition jusqu'à maintenant. On a toujours attendu les Angolais là parce qu'ils ont dominé le basketball sur le continent africain pendant un très bon moment. Chaque année, on attend Petro dans cette Basketball Africa League, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes en dehors de la finale qu'ils ont jouée en 2022. Par contre, quand tu prends une équipe comme FUS de Rabat, ils viennent d'arriver dans cette Basketball Africa League. On l'a suivi ici lors de leur premier match. Ils ont gagné contre Petro et ils retrouvent Petro ce soir. Est-ce que tu penses que Petro de Luanda est une équipe en déclin et que c'est en train de finir en fait pour les Angolais, mais ils ne se rendent pas compte?
Mais le problème avec l'Angola, il faut comprendre que l'Angola a investi beaucoup dans le basketball depuis longtemps. Et un ami d'enfance à moi, où on a grandi au Tchad ensemble, s'appelle Abdel Bouka, qui a joué avec l'Angola pendant une dizaine d'années, les Jeux Olympiques, ou soit la Coupe du Monde de basketball, soit champion d'Afrique, plusieurs fois. Maintenant, il a joué avec Carlos. Carlos et lui, ils ont joué ensemble.
Ouais.
Donc maintenant, j'ai compris que ce n'est pas le même système. Si on en parle de l'équipe angolaise, il y a eu un déclin de coaching que moi j'ai su comprendre qu'ils n'ont pas le même système de jeu. Eux, ils n'ont pas, veut dire, le même équipe. Et pour moi, quand on a vu la première saison, tout le monde a appris l'Angola, Petro d'Agosso de gagner le tournoi. Mais écoute, il ne faut pas, veut dire, lâcher d'autres équipes. Parce que tout le monde est venu et en sachant que l'Angola, l'équipe angolaise, va gagner tout le monde. Et maintenant, comment il faut faire? Il faut venir changer un système de jeu qui va lui donner l'opportunité à d'autres équipes à gagner Petro. Donc, c'était ça. Et tous ces coachs-là qui étaient venus, leur objectif, c'est de voir comment gagner Petro. Et ils ont fait ça successivement pendant 3-4 ans. Donc, il va y avoir chaque année qui vont venir participer, ils vont rencontrer des systèmes, de nouveaux systèmes chaque fois. C'est au match qu'ils vont jouer ce soir. Vous allez voir, ils vont mettre un système en place qui va dérailler l'équipe angolaise et on ne sait pas si ils vont perdre ce soir ou pas.
Alors,
donc, c'est un match qui a joué encore.
Oui, Ali, lors du premier match entre FUS de Rabat et Petro de Luanda, on a constaté une chose, Cheikh et moi, c'est que l'équipe de FUS de Rabat était dans un système de défense individuelle, chaque joueur son adversaire. Alors que l'équipe de Petro de Luanda était dans un système de défense en zone, toi qui as joué au basketball, entre le système de défense individuel et le système de défense en zone, lequel préfères-tu?
Moi, je préfère le système individuel parce que, d'abord, avant de commencer le match, on a un scouting report. Si tu es parmi les 50 ans, ils vont te dire, telle personne, c'est la personne que tu vas garder.
Ouais.
Et maintenant, c'est à toi maintenant de voir comment tu vas lui dire, aller deux, trois matchs qu'il a joué et voir ses points forts et ses faibles points. Et comment veut dire contrecarrer cette personne. Mais maintenant, si on joue un système de défense zone, cela veut dire que maintenant, c'est l'équipe en général qui joue la défense ensemble. On ne sait pas qui on doit garder, mais on doit garder le panier et empêcher à ce que l'autre équipe marque. Mais en main-to-main, c'est simple. C'est simple. Tu dois venir garder et que si tu as battu, l'autre, il vient à ton secours et vous arrêtez l'offensive. Moi, j'aime le système main-to-main parce que la zone, c'est plus compliqué.
Ouais, justement, la zone, c'est un peu...
S'il y a une erreur, c'est fini, on est foutu.
Absolument. La zone, c'est beaucoup plus compliqué, comme tu le dis, Ali. Et nous, on a eu le temps de constater cela, justement, lors du premier match entre Petro du Rwanda et Fus de Rabat, je rappelle, remporté par les Marocains. Et donc, les Marocains s'étaient lancés dans un système de défense individuel, main-to-main, comme tu le dis, alors que les Angolais étaient dans un système de défense en zone. Et on a vu les conséquences tout de suite pour l'équipe angolaise. Elle a encaissé pas mal de buts. Alors, Ali, la grosse déception dans cette conférence à Kalahari, ce sont les Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, justement, hôtes de la conférence à Kalahari, mais qui ont perdu tous les matchs jusqu'ici. Il leur reste deux matchs à jouer, l'un contre Petro de Luanda, l'autre contre Fus de Rabat. Est-ce que ce serait possible pour les Sud-Africains de se rattraper?
Pas du tout. Là, je suis clair et net, pas du tout. Si ils n'ont pas eu à gagner un match dès le début, ils ne vont pas gagner un match à la fin.
Pourquoi pas, c'est possible.
C'est le moral, je te dis, c'est le moral. Si tu perds trois matchs successivement et tu es chez toi, quel est le moral que tu as veut dire avoir pour veut dire convaincre? Ça doit venir du coaching et en plus, ça doit aussi venir de la collectivité de ce joueur. Est-ce que réellement on veut que notre public ait veut dire, confiance en nous à gagner un match? Parce que d'abord, si leur public n'est pas derrière eux, c'est déjà un moral perdu qui vont veut dire. Aller perdre ce match facilement. Donc, moi, honnêtement, je te dis que il est mieux qu'il veut dire cède la place aux autres d'aller compétir réellement, quoi. Parce que l'équipe sud-africaine, ils ont des moyens, mais ils n'ont pas de joueurs. Ils n'ont pas de joueurs, ils ne sont pas, veut dire, des joueurs collectifs. Et on ne peut pas gagner un match de basketball si on veut être individuel et comparaître deux équipes.
Justement, Ali, parlant bien sûr de jeu individuel, écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe sud-africaine, c'est de réussir à gagner ne serait-ce qu'un seul match pour faire honneur à son public qui prend d'assaut les gradins tout le temps de la Sandbet Arena de Pretoria pour ces différentes rencontres-là. C'est dommage donc que les Sud-Africains n'arrivent pas à gagner. Juste un petit rappel en termes de classement. FIFA, Union Sport de Rabat et donc Fus de Rabat, c'est deux matchs, deux victoires dans la mesure où le Dynamo Basketball Club du Burundi a été exclu, donc tous ces matchs annulés. Et Petro de Luanda, c'est quand même deux matchs, une seule victoire, une défaite, la première défaite contre les Marocains et la seule d'ailleurs. Et puis Cape Town Tigers, c'est deux matchs, deux défaites. Cape Town Tigers se retrouve avec moins 38 au goal average, tandis que Fus a plus 35 et Petro de Luanda plus 3. Alors, Ali, tu as suivi justement cette actualité par rapport à l'équipe burundaise qui a été finalement exclue de la compétition après deux forfaits. En ton humble avis, qu'est-ce que tu penses de cette politique, on va dire, qui s'est mêlée au basketball entre-temps?
Bon, c'est... En tant qu'athlète, on ne doit pas veut dire amener la politique. Le sport réunit des ennemis. Le sport réunis
des amis.
Des amis. Et on ne peut pas être sportif et choisir d'être politicien aussi en même temps. Et franchement dit, j'étais pris par surprise. C'est la première fois. Hein.
Ouais.
Si c'était l'équipe nationale, alors j'allais comprendre. Bon, écoute,
ouais,
c'est l'équipe nationale. On porte le drapeau de notre pays.
Je suis d'accord avec
mais
toi.
Mais en tant qu'une équipe privée, tu ne peux pas faire la politique. Si c'était l'équipe nationale qui a été envoyée...
C'est un club, on va rappeler que c'est... Le club, il est voilà. Burundais, mais ce n'est pas l'équipe nationale burundais. C'est un club burundais voilà. Qui regroupe et des joueurs burundais en leur sein et des joueurs voilà. D'autres nationalités, dont des Américains ou encore des joueurs de partout, quoi.
Exactement. Donc, il faut comprendre. On ne peut pas venir faire ce truc-là parce qu'on a d'autres nationalités qui sont dans l'équipe avec nous. Mais si on avait seulement que l'équipe nationale burundaise qui était là, voilà... C'est la représentation d'un pays en général. Mais venir en tant que club d'une équipe, je pense qu'ils ont un peu exagéré.
Ouais.
Et je pense que la NBA Afrique va veut dire, avoir de pourparler, pouvoir veut dire, essayer de temporiser la situation.
Ouais.
Sinon, c'est je veux voir tout le monde jouer. Et on ne sait pas, même si l'équipe, s'ils arrivent à partir, s'ils ont. Ils ont dit, OK, on ne va pas faire ça, mais on va aller sûrement au Rwanda pour représenter notre équipe. Ça allait dire donner aussi notre image. Pour voir, dire, écoute, il y a des problèmes, mais on a toujours voulu être dire, en paix avec tout le monde. Donc, on est là pour jouer et pour montrer qu'on est ici pour la paix, pas pour faire la guerre.
Écoute, oui, Ali, écoute, c'est ton avis, on l'a très bien compris. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui pensent comme toi. Il y a d'autres aussi qui sont pour le fait que cette équipe burundaise ait refusé de, ce club burundais ait refusé de jouer. Écoutez, chacun y va de son avis. En tout cas, nous, on souhaite que le sport l'emporte toujours sur la politique parce que, comme tu l'as dit, le sport, ça réunit les ennemis. Le sport aussi réunit des amis. C'est dommage. Écoutez, la Basketball Africa League se poursuit. Ali, est-ce que tu as encore du temps pour nous ou pas?
Non.
Là aussi, la réponse est catégorique, elle est claire et nette. En tout cas, ça a été un grand plaisir, Ali. On espère qu'on va te retrouver hein, dans d'autres, voilà, dans d'autres émissions, dans d'autres plateaux. On comprend très bien. Et donc, merci en tout cas d'avoir été des nôtres hein, dans cet avant-match. Je rappelle entre FUS de Rabat et Petro de Luanda et du côté bien sûr de la Sandbet Arena de Kigali. On voit bien que d'ici là, les joueurs vont faire leur apparition sur le parquet. Ils y étaient il y a quelques temps hein, pour s'échauffer. Et là, ils ont repris position donc dans le vestiaire pour s'apprêter et ressortir. En tout cas, merci beaucoup, Ali. Bonne suite à toi. Et puis, on va se retrouver sans doute à d'autres occasions, toujours dans cette Basketball Africa League. Et donc, Sims Lumamou qui vient de nous rejoindre hein, pour la production de cette émission. Sims, à qui, bien sûr, Ali fait un coucou. Voilà, nous sommes toujours ici dans la capitale fédérale des États-Unis, Washington, DC, en direct depuis le studio 12 de la Voix de l'Amérique, devant ce micro Yakuba Ouédraogo pour commenter avec vous cette rencontre entre FUS de Rabat et Petro de Luanda. Je rappelle que ce sont les matchs de la conférence Kalahari de la Basketball Africa League saison 4. Et puis, en studio avec moi, après, d'abord Cheikh, après Ali, eh bien, c'est Nanit Talani. Nanit, bonsoir ou salut et bienvenue.
Bonsoir Yakuba, merci.
Comment ça va?
Très bien.
Alors tu es prête pour... On se tutoie ici, hein? Il n'y a pas de vouvoiement, on ne met pas de barrière parce qu'on est dans une émission relaxe et donc on profite au maximum. Alors comment ça va Nanit? Ça va très bien?
Oh, ça va très bien et je pense que Sims Lumami aussi va bien.
Voilà, et donc tu suis ces matchs hein, de la conférence à Kalahari. de la Basketball Africa League saison 4. Écoute, ce soir, il y a un match très attendu entre deux clubs qui s'étaient rencontrés pour la première fois en ouverture,
yeah,
avec cette victoire angolaise sur l'équipe marocaine de FUS. Nanit, avec toi, on va découvrir tout de suite les cinq entrants de chaque côté. Dis-nous qui va fouler le parquet ou qui ne va pas fouler le parquet.
Ben, en tout cas, Yacouba, nous avons déjà les cinq de FUS du Maroc. Nous avons Jonathan Devanat, Kendrick Brown, Ayoub Nouy, Aliou Diarra et Abdelhakim Zouita. Ça, c'est pour le Maroc. Alors, pour le Rwanda, les cinq, nous avons Yannick Morera, Tilde Dundao, Carlos Moraes, Loukeni Gonsalves et puis Aboubakar Gakou. Voilà, tu vois, les 10 joueurs des deux équipes.
Écoute, Nanit, moi, j'ai hâte de voir ces garçons-là sur parquet.
Le
parce que oui, parce qu'ils ont donné du spectacle à voir lors du match, premier match de cette
après toi, avoir encore du spectacle, parce que ce sont les mêmes qui reviennent.
Mais justement, c'est pourquoi on s'attend du spectacle, parce qu'on connaît déjà ces garçons-là.
Mais seulement, tu sais, Yacouba, quand deux équipes se sont retrouvées à l'aller ou bien en début de la compétition et qu'on retrouve les deux équipes encore en finale, en général, moi, je sais toujours pas à quoi m'attendre parce que je me dis soit l'équipe vainqueur va chercher à maintenir la pression ou la domination, mais aussi il y a l'équipe qu'on a vaincue qui va chercher à démontrer que ce soit parce que tu nous as battu à l'aller qu'au retour, on va se laisser faire. Mais donc, en général, le match est toujours caillou, quoi.
Si tu dois miser une pièce, ça c'est qui?
Bon, ça c'est vraiment
moi
dur.
Personnellement, j'aime pas ce jeu-là, mais j'aime
exactement
l'imposer aux autres.
Non, mais parce que je vais pas avoir mal au cœur à la fin. Oui, je vais miser sur une équipe qui va perdre à la fin, j'aurai mal au cœur.
Non, c'est du sport. Il n'y a que en basketball, il y a deux résultats possibles. Soit c'est une victoire, soit c'est une défaite. Il n'y a pas de match nul.
Non, mais même en foot, quand il y a un match nul, à la fin, il y a toujours un vainqueur. Donc il n'y a jamais, oui. Donc il y a toujours un vainqueur, quoi, quel que soit le sport.
Alors, écoute, Nanit, on a deux clubs, je le disais, qui se connaissent très bien pour avoir joué le premier match, celui d'ouverture de cette conférence Kalahari, ensemble. Ce soir, en fait, on le disait, avec oui, Ali et avec Sheik, l'équipe angolaise avait défendu d'abord en zone lors du premier match, avant de se rattraper pour défendre individuellement, c'est-à-dire chaque joueur défend face à un adversaire. Simplement, il ne m'a pas fait signe, mais je trouve que le jeu est en train de commencer du côté de Pretoria. On aura le fil tout de suite et Nanit, on aura l'occasion de revenir bien sûr, de discuter sur cette question de défense en zone. Et c'est parti donc pour FUS de Rabat, Petro de Luanda.
Sur cette passe, Moraes le flotteur. Le rebond offensif pour Yannick Morera.
Et qui dégage bien Morera. Oh, c'est dommage.
Et qui n'a pas pu terminer.
Oh, oui, qui avait pris son temps, qui avait pris la position.
John Jordan qui s'arrête à mi-distance. Premier shoot manqué pour l'Américain. L'un des joueurs sensation de cette conférence Kalahari, peut-être l'un des meilleurs tout simplement. Zouita à 3 points.
Oh, il s'en sort bien. Oui, il s'en sort bien parce qu'il y avait une erreur défensive et personne qui était sur les deux joueurs.
Gakou. Très court. Et le ballon de contre-attaque. Ken Brown qui va prendre le hoop. Ah, ça ne rentre pas. Toujours pas de coup de sifflet.
C'était téléphoné sur cette action-là. Gakou était très bien positionné, il avait senti qu'on ne voulait pas terminer l'action en un coup. Et voilà,
c'est Gakou. Deux possessions consécutives positives pour l'international angolais.
Et sur les deux actions, on a eu bien sûr Moira à l'intérieur qui a raté, mais c'est un rebond offensif. Il y avait de la physicalité. Et puis sur cette action-là, regardez Gakou, comment il va pouvoir rentrer avec l'épaule. Regardez, il prend position B5, l'épaule droite en plein dans la poitrine. Il dégage Zouita. Excellent mouvement, c'est comme ça qu'on agresse l'adversaire.
Ça va peut-être lui faire du bien parce qu'on sait qu'il n'est pas très très bon cette saison non plus. À peine 10 points de moyenne, mais surtout 3 sur 11 au shoot, 27%. Zouita.
Ouais, qui doit s'écarter. C'est pas un véritable big man, Zouita. Hein.
Et nous,
quand il a des joueurs qui ont son gabarit ou légèrement plus petit, voilà. Là, il est mieux. Il a du momentum. Il peut lire. C'est un ancien extérieur qui aujourd'hui, avec le temps, joue à l'intérieur.
Mais regardez ce qu'on disait. On parlait de ce garçon comme étant peut-être un des joueurs importants dans cette rencontre. Il avait tellement rien fait lors du premier match. Il a déjà pris 3 shoots en 2 minutes. Il en avait pris 15 sur l'ensemble de la rencontre la dernière fois.
Tout à fait.
Tilde Dundao.
Il a envie de jouer à l'intérieur encore une fois. Oh, bonne défense d'Aliou. Et Gakou qui s'en sort.
Ouais. Oh, avec un petit peu de réussite pour le Petro de Luanda.
Mais c'est son jeu, Gakou. Hein. Son jeu de Gakou, c'est les 3 points ouverts, l'air bon offensif. Il y a des petites actions comme ça, défensives, où il peut aller chiffrer un ballon. Bonne défense de Dutao.
Festival.
très bonne défense. Très très bonne défense de Doudaou qui est dessus, qui prend la perce en face. Il a d'abord empêché d'utiliser l'écran. Et ça, c'est un Doudaou, rien que sur les deux premières minutes qu'on n'avait pas lors du premier match. Regardez, il empêche l'utilisation de l'écran de Diarra.
Il y a le coup qui sort.
Oui, exactement, il y a le coup qui sort. C'est parce qu'il est dans l'espace personnel de son adversaire.
Alors, messieurs, je peux vous dire que sur le banc du Petro, la personne la plus volubile, c'est l'ami personnel d'Étienne, le préparateur physique.
Ah, c'est... si vous n'êtes pas très heureux dans votre vie, vous le regardez à l'échauffement, vous êtes heureux ensuite.
Bien joué. On parlait des paniers. C'est facile.
Voilà. Pour égaliser, encore une fois, ça parle d'une perte de balle du Petro de Luanda. Et la faute de John Jordan.
Et le coach Neto en parlait. Faire attention, pourquoi vous les avez vus. Ils jouent peut-être plus petit. Le Fus de Rabat, extrêmement explosif en contre-attaque. Non seulement le trio de garde d'extérieur, mais aussi Aliou Diarra. Alors, j'ai pas mis Zouita là-dedans, c'est pas quelque chose de personnel.
Non, non, non.
Mais avec les années, il a perdu un petit pas.
Doudaou à 3 points. Wow. Et ça va rentrer pour Doudaou. Il va faire du bien ce shoot-là pour Doudaou.
Ah, il est dedans, Doudaou. Hein.
Lui aussi, hein, à peine 10 points de moyenne cette saison.
Regardez la défense de Maurice. Noé qui lui donne un petit peu d'espace. Ah, ben, là, il se fait avoir sur le close-up.
Et le step-back de Noé qui ne va pas rentrer. On a peut-être un petit peu trop respecté son shoot à 3 points, ce que vous disiez la dernière fois, Noé.
Ce que je disais, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime bien se lâcher, quelqu'un qui a des saisies dans les longs pas dans la raquette. Et il faut essayer de trouver ça. Je ne vais pas dire son point fait, mais peut-être là où il y a un petit peu moins, un moins bon pourcentage. Donc pourquoi pas le regarder d'abord shooter à 3 points au lieu de directement le plonger et il lui permet justement d'attaquer les espaces.
Moreira qui va l'attaquer Diarra.
Ah, il y a faute, bien joué de Moreira.
Lancé à suivre pour Moreira qui montre les muscles. Il va être important aujourd'hui, Yannick Moreira.
J'aime beaucoup. Moreira, c'est peut-être la troisième fois, si je ne me trompe pas, qu'il reçoit ball à l'intérieur. Regardez, il va encore. Il va attaquer Aliou Diarra qui se laisse aller. Vous avez vu ce bras latéral, le bras gauche latéral, c'est lui. C'est ce bras-là qui lui donne la faute.
On avait été déçus par son match la semaine dernière. Seulement 6 points à 3 sur 7. Mais surtout, il s'était un petit peu fait manger psychologiquement par Silla, le joueur issu du programme BLNB. Il fallait qu'il y ait une réaction pour l'instant. C'est le cas déjà par le Petro, mais aussi par Yannick Moreira.
Oui, oui, il y a une excellente entrée en jeu, mais aussi un vouloir de l'équipe de passer le ballon à l'intérieur et de le laisser jouer son 1 contre 1.
Premier temps mort, en tout cas dans cette partie. Plus 5 pour le Petro de Luanda.
Vous êtes en direct sur la Voix de l'Amérique, VOA Afrique, ici à Washington, dans ce studio Timothée Donangmaï et Nani Talani pour vous accompagner dans ce match de la balle, Nani.
Il y a effectivement, Tim, le match a déjà commencé entre FUS du Maroc et aussi Petro de Luanda. Et on remarque que c'est quand même de Luanda plutôt, donc de l'Angola. Ce sont les Angolais qui semblent avoir la main, qui semblent vraiment dominer le match. Et notamment avec Yannick Moreira. C'est un jeune qui joue très bien. Il est au numéro 2. Mais son ancien club, c'est Apoek Afula. Et il a déjà fait 4 rebonds. Aboubakar Gakou, toujours du côté de Luanda, a fait aussi 4 rebonds, alors que Lou Kenny en a fait 1. Alors que quand on voit du côté du Maroc, Tim, tu vois bien que c'est un peu faible, hein, les rebonds qu'ils ont donnés.
Oui, c'est vrai que le club marocain traîne un peu là, avec on a Jordan qui a réussi à saisir 3 rebonds. Et également, on a Abdelkarim Zouita qui a 2 points. Donc, c'est un match qui vient de commencer et les deux équipes s'observent un peu, Nanit, mais je crois que les Angolais essaient de prendre de l'écart, de prendre la distance.
Yeah, parce que, comme on l'a dit au début avec Yakuba, ce sont deux équipes qui se sont déjà rencontrées en match d'ouverture et ce sont les deux qui se retrouvent également ici en ce moment-ci. Donc, ça va être un match où chacun va essayer vraiment de dominer l'autre. Mais pour le moment, comme on l'a dit, ce sont les Angolais qui ont le dessus.
Voilà, Nanit, le match reprend avec des lancers francs.
faire des changements stratégiques et prendre des décisions pour s'adapter au premier match. Et aujourd'hui, on voit très bien avec le Petro qui est beaucoup plus agressif et qui est rentré dans le jeu aussi rapidement que le FUS, ce qui ne fut pas le cas lors du premier match.
Alors au niveau défensif, José Neto a demandé à ses joueurs de continuer de défendre sur panier en zone presse et quand la zone presse est passée, de défendre en individuel un peu plus tassé.
Il leur fait du bien cette presse, ralentir le jeu. Oh, il est passé. Pas trop de chance. Oh, le rebond géant de Jordan dans la raquette. À deux mains.
Ouh, il a hésité. Il est loin. Mais il est capable
de la mettre. C'est dommage, il peut la mettre une fois de temps en temps. Il exagère jamais. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs cette saison qu'il en prend un. Encore une fois, on va pouvoir jouer en un contre un.
Et Yannick Morel.
Oh là là, ils font payer. Ouais. Ils font jouer la taille.
Il a pris un coup dans la truffe. Abdelhakim Zouita.
Pour l'instant, on va le voir. Regardez le premier mouvement, un petit peu ça. Mais regardez Gakou qui fait son basket. Et grosse erreur de Zouita.
Il remonte, effectivement.
On le voit sur le ralenti là. Bam. Ouais, dans les narines. Ah non, ça fait mal. Mais c'est le boulot de Gakou. Toujours être présent, proposer de la physicalité au rebond offensif. Et sur ce coup-là, Zouita était malheureusement pas en boxing out.
Ça fait plus 7 en tout cas pour cette équipe du Petro de Luanda. On sait qu'il n'avait mené que de 2 points au maximum lors du premier match. C'était à 2-0.
Oui, et vous êtes bien gentil. Heureusement que vous avez les stats pour nous la donner parce que je
ne l'avais pas. Honnêtement, je ne l'avais pas.
Regardez la défense du Petro. Alors, protège la ligne des 3 points. Gonsalves est sur Jordan qui avait fait énormément du mal.
Faut de Gerson Gonsalves.
Ouais, qui est quasi en un contre un sur Jordan, qui l'empêche d'avoir le ballon. On sait que Jordan est très très explosif. Mais ça ralentit le flux. Regardez, Jordan qui n'est pas capable de l'avoir en première intention. Il va devoir sortir et Gonsalves qui joue un petit peu trop avec les mains.
Brown, l'écran d'Aliou Diarra pour libérer son shooter, ça va rentrer. On avait dit qu'il n'était pas très scoreur lors des premiers matchs. J'ai l'impression quand même que là, ce soir, il va falloir quand même qu'il se montre au scoring.
Oui, tout à fait. Et sur ce pick and roll là, le petit shot mi-distance fait du bien. Ça fait aussi partie des matchs retour. Justement, on va pousser d'autres joueurs à prendre des décisions. Oh, la belle intercession de Brown.
Qui est omniprésent dans ce début de rencontre.
Qu'est-ce que ça va vite. Et Maurice, ça fait un super effort pour revenir en défense.
Oui.
Regardez, on le laisse 1m50, regardez, on joue. Ah, il va s'en vouloir. Morales sur cette action parce que il y a réellement un bon 1m50. On n'est pas directement sur son shot, mais on est capable de le contester s'il le prend. Mais Nui qui s'en sort très très bien avec encore son double pas.
C'est exactement ce que José Neto a demandé à ses joueurs. Ne sortez pas, obligez-les à shooter.
C'est justement dans ce secteur-là, c'est en slashant que Nui avait fait beaucoup de mal aux Tigers lors du match précédent.
Énormément, ou bien en lisant des close-out, en ayant mis le ballon sur un dribble ou deux maximum au sol, mais toujours en ligne droite. Et puis il nous a fait rêver avec ses lay-ups, ses Eurostep.
13 points de moyenne sur les deux premiers matchs pour Ayoub Nui, à 50% sur les 24 shoots qu'il a pris en 2012. Mais c'était quasiment que des shoots d'aise, entre guillemets.
Il était bien et au bon moment. Il en a mis quelques-uns dans les moments clutch.
Et toujours cette adresse calamiteuse au lancer franc.
Ouais, c'est vraiment pas son point fort, disons. Tilde Dundao.
Oh là là, ça va aller vite. Ça va, regardez, Noué déjà avancé.
Oh, l'explosion.
Oh, vous l'avez dit, ça va très 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 vite.
Moraes. Moreira, le flotteur, qui ne flotte pas malheureusement.
Oui, voilà, et ça c'est leur jeu, regardez maintenant. Rebond défensif, on court, Zouita de l'autre côté.
Et rencontre, c'est un petit peu tard, effectivement. Le panier a été accordé.
Alors si c'est Zouita qui finit les contre-attaques, messieurs...
On se remet au basket. Mais j'allais dire, il y a encore quelques années, ça aurait été aussi un gros dunk de Zouita.
Oh,
regardez
Nui. Oh que oui.
Regardez Nui, la finition. Et je me demande si Nui, il n'a pas gagné le concours de dunk au 3 contre 3 au championnat du monde, avec l'équipe nationale belge d'ailleurs. Et ils auraient dû faire le scouting, je peux vous le dire, parce qu'il est connu pour ses petits dunks.
Mais c'est surtout sa lecture défensive aussi qui était très bonne sur la pénétration de Dundao.
Et ça, c'est vraiment le genre d'action qui peut réveiller vraiment une équipe. Le fus de Rabat est revenu à une possession. Et je vais reprendre ce que j'ai dit il y a quelques instants. Le panier n'a pas été accordé, il y a bien deux lancers francs. C'est juste une faute qui a été sifflée. Sur deux pour Zouita. Ça va être recommencé.
Dacou est parti un peu trop vite.
Faux départ pour Dacou.
Alors regardez tout à l'opposé, Carlos Moraes qui est tout caché.
Ouais, Filippo Inzaghi. Il n'y a pas de hors-jeu au basket, heureusement.
Non, le hors-jeu, c'est les 3 secondes, mais c'est très rare.
Et mine de rien, ça change tout, hein, ce lancer recommencé, puisque il l'a mis, Zouita. Il n'y a plus qu'un point d'avance pour le Petro de Luanda. On est à mi-distance à peu près dans ce carton.
Ouais, bien joué. Il y a déjà sur les 5-6 premières minutes, il y a plein de choses qui sont différentes du côté du Petro. Regardez, la pression qui est mise par le FUS. Eh ben, on l'attaque cette fois-ci, on n'est pas juste en train d'essayer de l'absorber, on l'attaque parce que quand vous êtes très près, aussi loin, vous n'avez pas la capacité de bouger vos pieds.
Deuxième faute pour Zouita qui va être coaché tout de suite par Saïd El Bouzidi. Encore une fois, c'est intéressant, la première rotation du FUS de Rabat ce soir.
Incroyable. Le jeune Silla.
C'est Mohamed Silla, issu du programme BL Elevate, dont on vous parle évidemment quasiment à chaque match. Qui lui par contre fait partie de la NBA Academy.
Ah ben écoutez, il est au Mexique.
Du Mexique, c'est
ça. Oui, exactement. Alors bien sûr, c'est un joueur d'origine sénégalaise, mais il y a tellement de talent en Afrique, à un moment, ça doit bien déborder. Et voilà, on lui a trouvé une place dans une... Bien sûr, tous les académies sont à un niveau exceptionnel. Il est au Mexique, il est en train d'apprendre l'anglais, il est en train d'apprendre l'espagnol. Et voilà un joueur qui est déjà en train de voyager. Oh, bien joué! Et ben voilà, Diarra, Silla... Quel impact, quelle productivité, c'est incroyable, en montant en sixième homme dans un match aussi important, d'être capable de déjà marquer son premier panier pour un joueur aussi jeune que lui, un 2005 d'ailleurs, ou un 2006.
Peut-être. Un 2005, 31 juin 2005. Gakou à 3 points ouverts, ça rentre dedans, bien sûr.
Bien.
Ouh, il y a des choses qui ont changé du côté du Petro du Monde. Il n'était qu'à 12% de réussite, Gakou, avant ce shoot-là, il était 1 sur 8. À 3 points, bien sûr.
Oula, on n'arrive pas à jouer avec Jordan, la défense de Gonçalves Pay. Et voilà. Et ça, c'est des attaques comme ça, à vide, qu'on doit faire extrêmement attention. Il faut absolument que Nui trouve une manière pour trouver son sweet spot.
Oh, la finition. Carlos Moraes, pas terminé. Silla qui remonte le ballon, qui se dribble un petit peu sur lui-même.
Allez, il trouve son joueur, il trouve son garde.
Et John
Oh là là, c'est athlétique.
Ouh, j'ai confus. Il y a un petit sifflet, il s'en fout, John Jordan, on le voit.
Il a été un peu court là sur cette action, on ne peut pas tout avoir, hein. La détente et l'envergure. Heureusement derrière, encore une fois, le jeune Silla qui est présent. Bon, ce beau shot à 3 points, Gakou qui est dedans. Ah, regarde, l'action, j'adore, entre les deux joueurs, les deux big men, Aliou Diarra, et c'est où, il est aérien, Silla. Il est très aérien.
Nui qui va aller se reposer, arriver sur le terrain de Soufiane Benmine. Qui est un des leaders dans cette équipe, même si c'est pas lui qui a le plus gros temps de jeu. Mais qui fait vraiment partie des joueurs qu'on entend le plus quasiment aux entraînements. Un de ceux qui met l'ambiance aussi.
Ouais, mais il avait, je me demande s'il était pas à 12 points. J'ai pas la statistique là sous les yeux.
Il a 9 points de moyenne.
Mais le premier match contre le Petro, je pense qu'il avait dépassé les...
Benmine était à 12 points, effectivement. Le meilleur marqueur, c'était Diarra avec 15. Non, c'était Jordan avec 17, pardon.
Alors, normalement, j'ai une très mauvaise mémoire, mais quand il s'agit de statistiques, je me rappelle une fois de temps en temps.
D'accord, merci. Aliou Diarra. 3 minutes à jouer dans ce premier carton.
Allez, le hand-off. Bonne défense de Dundalo encore une fois qui fait son travail de. Dans les mains de l'adversaire. Oh la belle passe de Jackson, on a un temps. Ah c'est dommage.
Nice. Il y aura le Coutillier, il est dehors malheureusement, il y a les Morera. Ah ils se sont un peu compliqués eux-mêmes la tâche de cette action. Oui.
J'étais sûr que Dundalo allait être capable de compléter cette magnifique passe de Gonçalves, hein, de nulle part qu'il a relancé. Mais vous voyez que déjà la défense de Dundalo, son 3 points, la pression qu'il met sur Kendrick Brown.
Bon, c'est sûr hein, qu'il fallait s'attendre à une réaction du Petro de Luanda, qui est évidemment un des points lourds du continent qu'on avait trouvé un petit peu en dedans lors du match d'ouverture. Badreddin Azouga et Bayeri sont sur le parquet côté FUS.
Silla va devoir distribuer le ballon parce qu'on a difficile encore une fois à le donner à Sevilla. Et puis il suit bien Silla. Ouais, c'est bien Silla. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait du bien avec la supervision.
Et c'est pas rendu du coup de l'autre côté. Silla encore une fois qui se bagarre. Il y aura un coup de sifflet contre Yannick Moreira me semble-t-il.
Regardez, on voit ici Ben Mine qui pénètre et qui garde Silla. Et Silla surtout qui suit derrière. Et l'envie de terminer en puissance à chaque fois. Il attrape les ballons. Il attrape les ballons et il termine en force. Là, il joue comme un adulte.
Et c'est très important en tout cas de trouver des solutions parce que Jonathan Jordan est pris en boîte par Gerson Gonçalves. Donc c'est très important que les autres joueurs puissent effectivement offrir des solutions offensives.
Ah, il apporte une réelle solution. Je crois qu'il y a une faute technique.
Attention, faute technique. Il me semble que c'est Yannick Moreira.
C'est Moreira qui vient de commettre une faute à l'instant. Donc ça sera sa deuxième parce qu'on rappelle qu'en FIBA, les fautes techniques sont comptabilisées dans les fautes. Bah, du coup, tout de suite, il est coaché.
Ah, c'est toujours décevant. Moreira qui est important dans ce match, qui a très très bien commencé.
C'était vraiment la double peine parce qu'on offre un point supplémentaire à l'adversaire. On s'inflige soi-même une faute.
Oui, on permet le FUS de revenir parce que le FUS était en train de suivre. Là, on va aussi là au lancer franc qui a eu déjà un énorme impact en quelques minutes.
Arrivée de Bouyamba et de Johnny Pedro pour le Petro de Luanda. Et il met son lancer en plus, suite à la faute de Yannick Moreira. C'est la première fois ce soir que le fils de Rabat est devant.
Wow. Il est à 6 points. Il est à 6 points, si je ne me trompe pas.
Il est absolument à 6 points. Il est surtout le meilleur marqueur de son équipe.
Ah oui, présent en rebond. Défensivement, on sait qu'il a de l'envergure et il est assez bon sur ses jambes. Regardez là encore une fois, c'est du coup.
Il est battu par Moraes, mais il faut un exploit du vétéran
Goler. Ah oui,
qui est gêné, hein, au genou. On rappelle qu'il est touché au genou, Carlos Moraes.
Moi, ce que je trouve du côté du FUS, c'est que le coach, elle vous a dit, c'est vraiment l'un des rares coachs qui a pris la décision d'utiliser son joueur de la BLL Veit.
Azouga, très court.
Ouais, très court. Et puis, oh, quelle erreur d'Azouga qui va vers le ballon et qui permet la contre-attaque. Bien joué de Dundalo. Azouga qui a plongé sur Dundalo. Alors, je vais vous poser la question. Il n'y a aucune chance, et je pense que Malik va être d'accord, que Azouga arrête Dundalo en contre-attaque.
Non, mais en plus, il était entre deux os en essayant d'aller jouer le rebond offensif.
Tout à fait, ça c'est vraiment une grosse erreur. C'est lui qui donne la contre-attaque.
Et il a regardé. Bouzidi qui demande à Azouga de venir justement. Vous êtes pas loin, Malik, attention, essayez de tendre l'oreille, mais ne prenez pas un coup. Hein.
Non seulement lui, il a pris une souffrance, mais je peux vous dire aussi que nous, on avait pris une en sortant.
J'aime bien ce coaching du coach El Bouzidi, c'est un vrai coaching. Un coach qui aime bien ses joueurs, qui va en tirer le meilleur et qui lui fait comprendre que l'erreur était flagrante.
On retrouve Yacine Bayeri en tout cas sur la ligne de lancer franc.
Et je voudrais juste dire, on a Yacine Bayeri qui est un shooter exceptionnel à 3 points, qui a une belle taille. Et Azouga sur le terrain, donc on a deux gros shooters qui sont montés sur le terrain. Mais aussi ces deux joueurs qui doivent faire particulièrement attention à leur défense. En homme à homme. Donc là, il faut qu'il y ait un effort de retourner vers des transitions défensives.
Carlos Moreira.
Ah, il est dépassé déjà, Bayeri. Oh, la faute.
Attention, parce qu'il est tombé lourdement, Carlos Moreira.
Il y a Azouga qui dit non, on a essayé d'écarter, ça a été sympa de revoir. Alors là,
je crois que la nuque, elle prend quand même le parquet. Hein.
Alors on n'a pas revu malheureusement.
Azouga est mal placé. La faute n'est pas méchante, mais Azouga est dans la faute parce que son mouvement en fait n'est pas. C'est pas un mouvement fondamental du contre.
Mais c'est en rapport avec ce que vous disiez, Jacques. Hein. Sur la vitesse intrinsèque, Moraes va beaucoup plus vite que Bayeri et la conséquence elle est là.
Oui, tout à fait.
Il va serrer les dents, Carlos Moraes.
Et on est vraiment dans un match. Alors bien sûr, l'attaque, ça reste. Le plus important, le département, le plus important. Mais si vous n'avez pas à chaque fois 5, voire 4 excellents défenseurs, vous allez prendre l'eau très très rapidement.
points de moyenne sur les deux premiers matchs. Carlos Moraes, il est déjà reparti sur des bases très élevées.
Moraes, 2-1.
L'Américain Marquis Cummings est sur le parquet côté Petro de Luanda.
Hey, Cummings qui amène directement sa physicalité aussi. On dirait vraiment qu'il y a un
message. Faute technique en Cummings.
Alors, on était masqué par les joueurs, on n'a pas vu exactement.
Alors, sur le lancer franc manqué, justement, le ballon lui revient et il le rejette tout de suite sur l'arbitre.
Ouais, ça c'est quelque chose qu'on n'accepte plus. Hein. Ça, c'est vrai que les arbitres sont conscients sur ce genre de choses. La relance sur l'arbitre, il faut faire attention, c'est dommage. Alors, on voit la guerre au bon avec Azouga et Cummings.
Là il y a la faute de Cummings, le ballon va lui revenir. Et puis regardez ce qu'il fait.
Et il pousse dans le dos, c'est vrai. Ah oui, mais ça c'est. Il le fait exprès, on la connaît nous. On la connaît celle-là, Malik. Hein. On fait semblant de donner le ballon gentiment, mais elle a pas assez sèche. Je suis d'accord avec l'arbitre sur ce genre de choses-là.
Ça fait donc deux fautes pour Cummings en l'espace de 5 secondes. Il venait d'arriver sur le parquet.
Alors, ils n'ont pas vraiment de Silla sur le terrain. Le Petro, ils n'ont pas de big men comme ça qui peuvent les aider. Mais ils peuvent quand même aller chercher loin.
Alors, il se passe quelque chose à la table, il me semble qu'il y a une disqualifiante dans l'air. Hein.
Une disqualifiante,
carrément. Il me semble.
Oh wow. Ok, effectivement, l'arbitre vient de le dire, il a été exclu.
Eh oui. Cummings est exclu, il est disqualifié.
Oh, c'est dur.
Effectivement. Bon, il a dû avoir des mots.
Je suis désolé, en tant que coach, on fait mal à l'équipe. On sait d'ailleurs que cette passe tendue directement à l'arbitre, c'est quelque chose qui va pas être accepté. Mais si derrière, en plus, on suit avec des mots désagréables ou quoi que ce soit, se mettre hors du jeu sur un match de revanche, c'est pas très intelligent.
On sait surtout qu'on avait un petit peu pointé du doigt son impact limité jusqu'à présent.
Et ça peut avoir deux effets, soit un effet qui va inhiber l'équipe, soit un effet qui va révolter l'équipe, on verra.
Alors en tout cas, quoi qu'il en soit, Cummings, qu'on attendait aussi avec impatience, qui n'avait pas eu un très très gros match, qui n'avait pas eu spécialement énormément de temps de jeu, mais on l'a vu sur les matchs. Après, il avait été présent, il pouvait
19 minutes de temps de jeu quand même en moyenne.
Oui, vous savez quand on a... Alors je sais que c'est difficile de rentrer dans le 5 de base du Petro, mais 19 minutes parfois... Vous savez quand vous êtes un joueur comme ça, vous jouez moins de la moitié du match, vous attendez plus à 25-28 minutes, mais il n'y en a pas beaucoup des joueurs du Petro qui jouent ce temps de jeu.
Et Ayoub Noui qui se fait masser les omoplates, qui a dû prendre un coup au niveau de l'épaule.
Le plus gros temps de jeu du Petro de Luanda, c'est Carlos Moraes, lui qui est aussi le plus âgé.
Ouais, ça fait pas trop mal, mais là il était une petite trentaine de minutes, c'est ça?
30,1 minutes précisément.
Je vous avais dit, j'ai une bonne mémoire.
Vous êtes impressionnant.
Allez, le Fusque est vraiment de retour dans le jeu.
Alors, il manque 2 points au Fusque, il les réclame au tableau d'affichage.
Oh, bonne défense de Pedro qui permet pas à Jordan de tourner le point, comme on dit. La belle patte!
Bien joué. Eh ben voilà. Il est juste. Soufiane Benmine depuis le début de cette compétition.
Ah, il pourrait être dans n'importe quel 5 majeur des équipes qui sont à la veille. Il est toujours solide dans ce qu'il fait.
Et le banc du FUS qui continue de réclamer 2 points qui auraient été oubliés par la table de marque.
Ils ont été ajoutés, Malik. Ça y est. 25-21. Je crois qu'ils ont été ajoutés.
Regardez, la pump fake, boum!
Il va dire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la pump fake, il y a aussi le sourcil qui se lève.
Mais bien sûr.
Parce que si vous ne levez pas le sourcil, le joueur ne saute pas.
C'est le professionnalisme qui parle.
Bien sûr.
Le souci du détail.
Exactement. On avait eu un super combat lors du premier match entre les deux équipes. Après 9 minutes et 15 secondes, je crois qu'on est encore reparti pour une belle bataille.
Oui, oui, et on sent que dans le game plan du Petro, la physicalité a son importance. On a déjà vu Gakou lancer franc, Moreira lancer franc, on voit maintenant Pedro. Toutes ces équipes comme Lynx qui avait été très agressive, malheureusement il n'est plus là, mais qui était rentré aussi avec ce niveau d'agressivité. On ne veut pas leur permettre de jouer leur jeu.
Bon, tant qu'ils auront Jordan à 0 points, ils ont une chance.
Mais pour l'instant, ce sont les autres qui scorent. Ouais, Maheri.
Ouais, il est off.
À 3 points, il y aura la faute de Jordan, justement. Donc, ce sera la deuxième.
Avec Maheri qui était complètement off sur son shot. Qui est justement un joueur qui aime bien dégainer derrière des 3 points. Il a un beau shot, un petit peu à la Dirk Nowitzki d'ailleurs, qui va très 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 haut.
Il y a une chose qu'il va falloir surveiller, messieurs, c'est aussi l'adresse à 3 points du Fuse de Rava. On sait qu'il sort d'un match à 2 sur 21 contre les Cape Town Tigers. Ils ont commencé par 0 sur 4 là.
Oui, mais game plan. Pousser les joueurs qui n'ont pas eu vraiment véritablement un impact derrière les 3 points à prendre des décisions. La défense en 1 contre 1 dès le début du match sous Jordan, où il n'a pas été vraiment capable de manier le ballon et de diriger l'attaque.
Ah, merci, j'ai eu très peur. Allez, on revient à un point.
Allez, regardez la défense qu'on a derrière. On est sur une défense de zone.
Baheri. Azuga.
Azuga, il faut qu'il bouge. Il est planté pied au sol. Il y a la ligne 3 points. Bien joué de Jordan qui essaie de créer quelque chose. Mais il n'y a pas beaucoup d'options. Ah, il s'en sort bien.
Deuxième possession pour le Fus à 3 points. Toujours pas d'adresse.
Ah, il s'en sort.
Il va rester 4 secondes. Anthony Nelson qui plante ses appuis.
Avec la planche.
Et on va en rester là. On n'est pas beaucoup plus avancé après 10 minutes de basket. 25 partout, Jacques. Les gagnants, finalement, c'est nous, parce qu'on se régale.
Oui, exactement, c'est ce qu'on attendait. Une équipe, un vrai combat au corps à corps. Les deux équipes qui prennent les décisions.
Timothée Dounangmaï et Nani Talani, ici à Washington, en direct dans ce match de la Basketball Africa League qui oppose Petro de l'Angola à Fus de Rabat au Maroc. Nanit, 25 points partout. Ça a été un premier quart d'heure très engagé.
Vraiment, vraiment engagé. C'était un match très, très difficile à jouer quand même. Je pense que les Angolais ont perdu l'avantage qu'ils avaient. Mais c'est ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le jeune Mohamed Sylla, le Sénégalais qui joue avec les Marocains. Il a à peine 19 ans. Mais il a volé la vedette à Abdelhakim Zuita parce que lorsqu'on a eu la petite pause avant, c'est lui qui menait avec 4 points. Mais là, il en a 8. Donc, c'était très, très impressionnant de sa part. Il n'est pas aussi... Sa corpulence n'est pas aussi impressionnante, mais quand même, il s'impose, quoi.
Mais il est plein d'énergie. En tout cas, le jeune Sylla a changé la face du match pour le Fus de Rabat. Il a très rapidement permis au Fus d'égaliser à 18-18. Et il a donc donné l'avantage par la suite à son club. Et autre chose à noter dans ce premier carton, Nanit, c'est l'expulsion de Matthew Cummings. Sur un jeu émotionnel. Il a lancé la balle contre un adversaire. Peut-être qu'il a aussi dit des mots pas corrects.
Ça fait très très mal de perdre un joueur d'envergure comme lui. Dès les premières minutes quand même du match, on signale que c'est l'un des deux Américains qui joue avec Petro Luanda parce qu'il n'y en a que deux. Donc, il y avait lui et puis Anthony Nelson, les deux Américains qui jouent avec l'équipe de Petro Luanda, qui n'est pas trop diversifiée hein, parce qu'il n'y a que des Angolais. Alors que lorsqu'on voit l'équipe du Maroc, il y a quand même un Belge, il y a un Malien, il y a un Sénégalais, il y a des Américains. C'est une équipe beaucoup plus diversifiée, l'équipe marocaine, par rapport à l'équipe angolaise. Et donc, cette expulsion, ça fait vraiment mal à son équipe. Ça peut les déséquilibrer. tout comme ça peut aussi booster leur énergie. On verra bien à la fin du match si son départ aura eu un impact négatif ou positif sur le reste de l'équipe.
Oui, Nanette, il faut dire que c'est un match de revanche pour les Angolais qui avaient été défaits 82-73 par l'OFUS lors de leur première rencontre. Donc c'est un match très important pour eux et c'est pour cela que la perte de Cummings préoccupe un peu. Mais comme vous l'avez dit, ça peut aussi être l'élément
déclencheur,
de leur mental pour qu'il s'impose dans ce match. Voilà, on est de retour pour le deuxième quart d'heure, Nanit.
Ok.
Aboubakar Gakou, il est déjà au-dessus de la moyenne de points sur les deux premiers matchs.
Alors sur le temps mort, on a travaillé sur la sortie de zone presse du côté du FUS.
Très beau con de Nelson. Encore une fois, cette zone qui met à mal. Oh, il bouge pas Sylla, Pedro qui rate.
Oh, bien joué Sylla encore
Sylla
une fois.
Sylla qui s'en sort très bien. Pedro qui avait malheureusement raté ce petit dernier.
Ah, oh, Domingos. Non, qui n'est pas sifflé. Baeri à 3 points.
Ça peut faire mal.
Ça ne tombe pas devant Sylla encore une fois. Il est partout. Belmine qui s'est créé l'espace.
Elle est courte. C'est dommage parce qu'il faut être capable de mettre tous les trois points quand vous faites une zone, il faut vraiment la faire exploser. Donc tant que vous ne mettez pas les trois points, vous ne trouvez pas des angles de pénétration, on sait que les Angolais vont revenir sur cette fameuse zone.
Gerson Domingos, Anthony Nelson, quatrième shoot très très court. Bon pour Sylla encore une fois.
Sylla, je sais pas combien de fois on a dit son nom dans les deux dernières minutes, mais va se terminer le match avec un double-double.
8 points, 4 rebonds pour le moment.
Azuga, oh, qui termine pas dans la raquette. Non, il doit prendre cette responsabilité. Azuga dans la raquette, il ne peut pas donner ça aux jeunes joueurs quand même.
Fin de la possession.
Vous voyez, au début du match, on avait Gakou qui a eu la même action à l'intérieur.
C'est ce que nous dit John Jordan d'ailleurs, vous avez raison Jacques.
Oui, il avait agressé Zouita dans sa action. Et là, pour l'une raison ou l'autre, Azuga qui évite le défi physique. Je me demande, c'est pas pour ça qu'on va mettre Big Naja sur le terrain parce qu'on a besoin d'épaisseur dans la raquette.
Le meilleur rebondeur de cette équipe, Abderrahim Nadja, pour l'instant 5 prises et demie de moyenne pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps de jeu pourtant. Enfin pas beaucoup, moins que certains disons. Il joue 12 minutes en moyenne. Gakou à 3 points.
Wow. Encore une fois, elle fait du bien cette adresse à longue distance pour Gakou.
Et le regard méchant de José Neto envers l'arbitre. Après ce tir à 3 points d'Aboubakar Gakou.
Et c'est vrai qu'on aurait pu vérifier s'il avait la place justement pour retomber sur le sol.
Nadja, bien joué.
Bien.
Et il se plaint de son coach qui parle un peu trop à Abderrahim Nadja.
Gerson Domingos.
La pique
en encore une fois. Le flotteur main gauche, ça va rentrer. J'aime bien cette petite hésitation.
Il a été intelligent, puis il était sur sa main gauche. Il avait Diarra qui était coincé en deux contre deux.
La hauteur de Jordan marchait, sifflé contre l'Américain.
C'est dur parce que au moment où il attrape le ballon, il est un petit peu bousculé quand il retombe sur ses jambes.
Est-ce qu'on va pouvoir revoir?
Oui, regardez comment il est haut. Regardez là, les genoux sur les fessiers.
Oui, mais il a marché quand même.
Il a marché, mais il y a peut-être un petit quelque chose.
Voilà, exactement, on va pouvoir. Alors là, c'est la finition de Domingos, qui est magnifique en 2 contre 1.
30-27, en tout cas, dans ce deuxième carton.
Voilà, Nanit, un début de deuxième quart-temps très engagé.
Il y a très engagé, mais il n'y a pas eu quand même beaucoup de différence en dehors d'Aboubakar Gakou qui a maintenant 13 points. Et aussi, je remarque que Mohamed Sylla a maintenant 6 rebonds avec 8 points. Donc, il est en train de dominer dans son équipe. Et concernant les passes décisives, depuis les premières minutes, il n'y a pas eu grand changement. C'est Aliou Diarra et Lukeni Gonzalez qui ont chacun une passe décisive.
Et Nanit, Mohamed Sylla qui est également très présent au niveau de la défense, il a saisi 6 rebonds.
Effectivement, en fait, il est partout, quoi. Il est comme de l'air, sondant le site à tout moment. Donc, c'est vraiment un pivot dans son équipe. En tout cas, on compte beaucoup sur lui du côté de FUS du Maroc.
Et tout à fait. Et donc, au niveau des pourcentages, on voit que il y a à peu près un équilibre avec 84% de taux de réussite pour le FUS contre 81% pour le Pétro, ce qui se reflète d'ailleurs dans le score de 27-30, Nanit.
Effectivement, et aussi lorsque FUS à 50%, Pétro à 46%, 33-45%, donc ce sont des équipes qui se talonnent quand même. Il n'y a pas un trop grand écart entre les deux. Donc jusqu'à présent, c'est quand même difficile de deviner laquelle des deux équipes va gagner.
Hein. Ben, on le saura tout à l'heure, Nanit, on retourne sur le terrain.
Pas un très bon angle.
Je suis surpris.
Il a touché le plexiglas.
Ah d'accord. Alors nous, on ne pouvait pas le voir. Oui, effectivement, vous avez raison, Malik.
Touche le plexi. Il était en phase descendante, mais il a tué le plexi.
Je crois qu'il a même pas cherché à marquer, il a cherché à toucher le plexiglas. Parce qu'il sentait le kraken arriver derrière.
Ouais, il sentait le souffle de Diarra juste derrière lui.
Najar.
Regardez cette zone qui bouge bien.
Benmin. Oh, qui a pas osé prendre le shoot. C'est pas grave parce que Naja est là à côté de lui. Belle entrée.
Excellent.
Ramin Naja.
Ouais. Sur ce t-shirt mi-distance parce que cette zone des Angolais bouge très très bien. Elle donne à chaque fois un mètre entre guillemets au shooter marocain pour prendre leur décision. Et pour l'instant, ils sont un petit peu dans l'hésitation.
Gakou, cette fois-ci, est en échec. Oh, c'est un jeu de flipper. Et on demande une anti-sportive, mais.
Ah, ce sera une faute de Domingos. On va pouvoir revoir cette action. Oh oui. On l'empêche d'avancer. Regardez. Ah oui. Là, on empêche le développement de la contre-attaque. Bien vu de l'arbitrage.
Alors, il va y avoir un review parce que c'est un acte d'anti-jeu, effectivement.
Bien vu des arbitres. Et c'est un petit peu dans le game plan hein, du Petro d'empêcher cette équipe à courir.
Plus 3 en tout cas pour le Petro de Luanda, ça va être revu. C'est un moment important, évidemment.
Ça, c'est du vrai basket, hein, parce que c'est un basketball stratégique, on utilise bien les fautes. Domingos, il a bien raison, entre guillemets, de donner cette faute. Il sait bien qu'il ne va pas jouer suffisamment que pour arriver à son quota de 5 fautes. Donc là, il empêche cette équipe du FUS de prendre confiance sur leur contre-attaque, de prendre voilà, des responsabilités.
Oui, alors Nanit, là, les arbitres sont en train de vérifier un acte d'anti-jeu de Gerson Domingos du fils de Rabat, de Petro de Luanda, voilà,
oui.
qui a voulu casser le rythme du fils, empêcher que le fils revienne à la marque.
Mais malheureusement, on voit toujours ce genre de jeu hein, dans tout genre de sport où il y a une équipe. Parce que j'avais remarqué depuis le départ, c'est que les Angolais sont quand même un peu, violents. Je trouve que leur jeu est un peu violent par rapport...
Vigoureux,
par rapport aux Marocains. C'est ce qui a d'ailleurs causé certainement l'expulsion
de Cummings.
Mmh. Oui. Parce que quand on joue avec agressivité, en général, on perd un peu les pédales. Donc, je crains que cette façon de jouer des Angolais ne puisse leur faire perdre beaucoup de points. et puis peut-être une probable victoire.
Mais en même temps, Nanit, le jeu, le basketball, c'est un jeu très vigoureux et
oui.
On se pousse et donc ça fait quelque part partie du jeu.
Oui, quand même, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser.
Tout à fait.
Et quand on dépasse cette limite, ben, on se trouve dans le collimateur des arbitres hein, et après on peut être expulsé du match ou alors provoquer des points contre son propre équipe.
Tout à fait. D'accord, alors nous repartons sur le stade.
Ça a quand même des soucis.
Ah, tout à fait.
Par contre, Diarra contre de l'autre côté, Gakpou qui va ressortir, Anthony Nelson totalement ouvert à 3 points. Et Ken Brown qui sauve ce ballon.
Ouh, la belle passe, très bien joué de Diarra qui connaît son shooter.
À 3 points, Johnny Pedro le rebond.
Et belle passe de Diarra en fin de course qui a été capable de connecter avec son shooter qui est à 3 points dans le coin.
Ouais, bien joué Nelson qui s'approche. Il n'a pas d'adresse longue distance, il s'approche d'un mètre.
C'est réveillé Nelson, hein. Il n'était pas présent lors du premier match, véritablement.
Trop du deuxième. En même temps, avec en l'absence de Cummings, même si c'est pas la même position, etc.,
il va falloir
que quelqu'un aussi se monte depuis le banc.
J'aime bien la taille qu'il a en tant que meneur de ballon, d'initiateur.
Déjà. Oh là là, le bruit. Oh mon dieu. Nelson.
Il est à son nez.
Ninja qui revient.
Qu'est-ce qui nous fait plaisir?
Qui a dit qu'il pouvait plus sauter?
Ça, c'est du leadership.
Ken Brown.
Ah, ça n'est pas qu'à sauter.
Ouais, c'est dommage. En train de sérieusement vendanger à 3 points.
Ouais. Et c'est dommage parce que l'effort de Ninja sur le retour défensif, il valait de l'or.
Ils sont à 0 sur 10 à 3 points ce soir.
Oh, la mauvaise passe de Kaku et Pedro qui était planté avec des pieds dans le béton, dans la raquette.
12 points à 2 sur les paniers de contre-attaque.
Regardez.
Pour le FUS.
Ouais. Et le shot, il est ouvert. Hein,
et le chouchou de Jacques va rentrer en jeu. Arginaldo Neto.
Ah ben voilà, ben vous me faites plaisir Malik.
Ken Brown. Ben Mille, l'extra passe.
Regardez, on va vers l'anneau, on trouve pas mal, peut-être une petite mi-distance encore un chat.
Encore une fois. Sérieusement de faire la différence.
Ah, il a été chercher les vieux livres dans la bibliothèque et ça fonctionne. Hein.
Les vieux livres dans la bibliothèque. Je suis obligé de relever. Parce que les grimoires de Naja.
Non, c'est bien ce qu'il fait Naja.
La fin de shoot pour
Gakpou. La belle passe de Gakpou.
Ça, c'est un caviar, vraiment.
Alors, même si Gakpou, c'est pas souvent qu'on le voit justement partir comme ça en dribble, mais il a gardé son calme, il n'a pas été trop vite, il a évité la percée en force et bien sûr, il a trouvé son coéquipier dans la raquette.
Ken Brown.
Zone. Regardez-lui. Oh là là, il y avait encore l'espace.
Et là, il y aura pas contre la faute. Ceci étant dit, faire une faute sur Nui sur cette conférence, c'est pas forcément une mauvaise chose.
Non, il s'en sort bien surtout parce que je peux vous dire qu'il était encore une fois coincé loin derrière la ligne des 3 points avec cette défense justement qui les oblige à prendre ses shots.
Il est à 2 sur 8 sur la ligne de lancer franc à Ayoub Nui depuis le début de la compétition. Et nous on a un nouveau temps mort à 3:47 de la mi-temps, alors qu'on revoit ce dont on parlait il y a quelques instants. Cette pénétration de Gakpou pour la bonne passe. Et le panier facile de Johnny Pedro. Le Petro de Luanda est devant, Jacques. Qu'est-ce qu'ils font mieux qu'il y a quelques jours?
L'agressivité des deux côtés du terrain. De un, c'est la première chose que moi je remarque sur le terrain, c'est tout le monde est rentré vraiment avec un objectif.
Alors vous suivez ce match de la Basketball Africa League entre le FUS de Rabat et le Petro de Luanda. On a une courte pause, Nanit, avec au tableau des scores 33 pour le FUS et 36 pour
l'Angola. Mm-hmm. Il y a pour Petro de Luanda. Donc, il n'y a pas bon. Comme au début, hein, le Petro de Luanda commence à reprendre un peu le dessus. Ça sera peut-être différent de leur match, de leur premier match, le match d'ouverture, lorsque Petro de Luanda a été battu.
Et tout à fait, c'est 73 contre 82, un lourd score dans ce genre de compétition. Et je pense que le Petro essaie ce soir de se racheter face au FUS de Rabat.
Yeah, mais c'est toujours dangereux quand tu joues avec un adversaire que tu as battu. Parce qu'en général, l'adversaire revient pas pour se laisser faire, hein, mais pour prendre sa revanche.
Tout à fait.
Et apparemment, c'est ce qu'on est en train de vivre dans ce match. C'est vrai que FUS du Maroc ne se laisse pas faire aussi, mais ce sont les points qui parlent, quoi. Jusqu'à présent, c'est Petro de Luanda qui prend le dessus.
Tout à fait. Alors nous allons retourner sur le terrain.
C'est si là, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. 5 minutes 30 de temps de jeu, 14 d'évaluation.
Mais il a été incroyable. Il a été incroyable, le jeune Silla. C'est l'une des plus belles performances que j'ai pu voir d'un jeune joueur dans un match aussi important. Et je pense que on commence vraiment à comprendre qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Quel joker, finalement, pour le FUS.
Ah bah, joker totalement inattendu.
Sixième homme.
Puisqu'on rappelle que cette saison, les équipes donnaient leur besoin en termes de joueurs et c'est la BIL qui leur donnait des joueurs. Donc c'est un cadeau du ciel qui est tombé dans leurs mains.
Et on a l'autre joueur de la BIL Elevate, Neto, le jeune Neto, qui était dans les qualifications dans la fenêtre en février, l'équipe angolaise qui est bien passée et qui fait l'action. Mais bien sûr, jeune homme, la belle petite passe rapide, main droite à une main à son coéquipier. Et derrière la zone, regardez, là ils n'ont pas encore regardé l'anneau, ils sont en train de faire bouger le ballon. Regardez Benmin qui est à l'excès, à l'opposé, qui est un petit peu tout seul. Ouais, on a raté le moment.
Chainbound. Benmin,
il a bien coupé, Naja, il avait coupé juste au bon moment.
Et ça ne rentre plus.
Oh là 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 là.
Alors le travail sur cette zone des deux petits moteurs, il est incroyable. C'est une zone 1-1-3, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais on voit Dundao et Neto qui font des rallyes défensifs.
Ah, regardez cette action-là.
Voilà, en tout cas, ce dont est capable la Génial de Neto, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un meneur.
C'est un joueur qui, quand il est à l'Académie NBA, est quasi tout le temps dans les 5 majeurs. C'est vraiment quelqu'un qui a l'habitude de jouer maintenant avec les adultes, parce que comme on le disait, il était avec l'équipe nationale, oui, angolaise. Il avait un bon petit temps de jeu. Regardez là, encore, il est quasi passé.
Oh, il est contré par contre par Ayoub Nouri.
Beau contre, hein, Boyan. Vraiment gros effort défensif de Nouri sur cette action-là, qui joue contre un joueur qui, au sol, est plus rapide que lui.
Oui, en bas. Dundao. Ouh, la petite fin de Dundao.
Et aussi, il a agressé Dundao.
Gakou qui n'était pas prêt à recevoir le ballon. 3 secondes.
Oh, Yamba, bien joué.
Yassine Baïri.
Et Yassine Baïri, on a besoin qu'il soit là, on a besoin qu'il soit agressif, parce qu'on sait que de l'autre côté, il fait partie des joueurs qui a ce potentiel d'aller se faire exploser une zone, mais du côté défensif et au rebond, il faut vraiment qu'il sorte les coudes. Et ce score qui a du mal à bouger, hein, parce qu'on avait sorti du carton à 25-25, 34-38.
On rappelle que la première rencontre des deux équipes avait abouti à une différence de 9 points d'avance pour le FUS. C'est-à-dire que si le Petro de Luanda veut remporter cette conférence, il faudra gagner au moins par 10 points. Et ensuite évidemment battre les Tigers lors de leur dernier match, que le Petro de Luanda, que le FUS jouera aussi. Et en cas d'égalité, on prendra la différentielle de points. Et là,
et quand vous sentez l'intensité qu'on a déjà dans les fenêtres, dans les conférences, je ne vous dis pas à Kigali comment ça va se passer.
Dundao qui envoie un avion en fin de possession de 23 à jouer dans cette première mi-temps. Et surtout, et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion de dire, il faut faire très très attention à soigner son différentiel de points. Parce qu'avant le début des quarts de finale, il y aura des matchs de classement pour déterminer les têtes de série. C'est-à-dire que le premier de toute la BIL jouera le deuxième, le troisième contre la quatrième, etc., 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 parmi les 8 équipes qualifiées. Et donc du coup, ce qui veut dire que vous pouvez être deuxième ou premier ou troisième au différentiel de points. Donc vous ne pouvez plus vous permettre de remplacer vos joueurs et de faire du management.
Hein. Chaque chose est importante, chaque point, chaque panier, chaque match bien sûr. Pour l'instant, la taille et la puissance angolaise est en train de faire la différence. Zuita et Naja dans la raquette. Alors on a beaucoup d'expérience, on n'a pas quelqu'un pour protéger l'anneau, mais on n'a pas aussi pour quelqu'un pour faire exploser l'anneau en attaque avec un bon dunk ou un petit lob.
Ken Brown qui va trouver une
bien joué. Naja, bonne défense. Et encore une fois, c'est la taille du côté angolais.
Oh, l'accélération de
Neto. Oui, 2 points dedans, il a touché la planche sur le compte, je me disais aussi.
Ah, ils sont vraiment en train de se casser les dents sur la zone angolaise.
Ouais, exactement. Et le petit changement, mettre le jeune Neto qui s'est accéléré, il est vif comme l'éclair. Regardez ça, ça fatigue l'adversaire. Oui, regardez les deux mains.
Ouais,
ça fait mal. 34-42. Petit à petit, ils sont en train de prendre l'eau.
C'est le premier run réalisé dans cette partie réellement. Ça avait été très serré jusque-là.
Et ce qui se passe pour l'instant, attention au fils, parce qu'on connaît le rythme que prennent les qualifications, mais vraiment avoir un aussi long moment mort à 3 points, je peux vous dire qu'il y a des équipes qui sont en train de prendre note, que c'est vraiment voilà, peut-être le point fort de cette équipe-là.
Ah, je suis d'accord avec vous, il faut absolument qu'ils trouvent des opportunités à 3 points.
Surtout qu'ils ont Azuga sur le terrain pour l'instant, il n'a pas encore pris, je pense, enfin, si, il a peut-être pris un shot, mais voilà, sans plus. Oh là là, on veut pénétrer. Oh là là, on sent. On est en train de s'enterrer.
Pour abonner dans votre sens, 2 sur 32 en cumulé sur les deux derniers matchs.
Oh là là, 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 là. Mais on est en train de s'enfoncer là, de ce côté-là. Alors la pénétration n'est pas mauvaise sur une zone. C'est ce qui permet souvent d'aller trouver des shooters à 3 points. Parce que lorsque vous pénétrez, vous allez attirer 2 joueurs vers vous. Mais on n'a même pas cette pénétration dans la caisse initiale.
En fait, il faut qu'elle soit préparée par de la fixation.
Oui, exactement.
Mais là, il n'y a pas de fixation.
Oui,
justement.
Voilà, exactement. On est. Voilà, le petit netto. Voilà. Ah, il a amené la sauce, hein, le petit netto.
Plus 10 pour le Petro de Luanda. C'est bien entendu le plus gros écart du match. Et là, maintenant, ça change tout par rapport au classement de la conférence. Faute offensive. C'est la troisième de John Jordan.
Ah, c'est dur. C'est une faute très, très dure. Mais encore une fois, pour l'instant, on sent que cette équipe du Petro a pris le dessus. Et c'est peut-être la première fois qu'on voit Jordan d'ailleurs discuter avec un arbitre.
C'est ça.
Regardez. Voilà, il l'oblige à aller tomber, à aller vers Bouyamba. Eh bien, bien sûr, il l'écarte. Sur le jeune distributeur angolais Neto, parce que je pense que lui là il a aussi pris le rythme un petit peu comme d'ailleurs Silla lors du premier quart-temps.
Gundao 7 secondes,
voilà, petite hésitation,
le flotteur, encore Gundao,
on est à 12 points messieurs. La défense du FUS, alors qui n'est pas spécialement mauvaise, mais le problème c'est que l'attaque est si difficile qu'on perd.
Oh là là, interception, voilà. Encore dernière possession pour le Petro de Luanda. Tilde Lundao.
Il a regardé le temps.
Et la faute.
Ah ben ouais.
Delawa. Ouais. Pas d'accord.
Ouais, il a très bien joué ça. Il a regardé le temps. Il a levé les yeux. Il a vu le chrono juste au-dessus du cerceau. Il est bien parti.
Seulement 9 pauvres petits points inscrits par le FUS de Rabat dans ce carton. C'est bien entendu le plus mauvais carton de cette équipe depuis le début de la conférence. Ouais. Il y a une chose qu'on peut peut-être noter aussi. Alors que je m'arrête parce qu'on voit bien sûr le flotteur de Chele Lundao. On a un temps mort. Toutes les choses,
Voilà, vous êtes en direct de Washington dans cette partie de la Basketball Africa League qui met aux prises le FUS de Rabat et le Petro de Luanda. Un match de revanche pour le club angolais qui a été défait 82-73 lors du premier match contre l'office de Rabat. Et maintenant, c'est Petro qui mène 46-34, 12 points d'écart à l'issue de ce second carton. C'est une remontée en puissance des pétroliers de Luanda qui tiennent absolument à prendre leur revanche dans cette partie. Ils savent qu'ils jouent la qualification pour la suite de cette compétition, dont 34 à 46. On a vu à l'œuvre le jeune Dundao qui a été vraiment très dynamique au cours de ce second quart-temps. On a aussi vu le jeune Neto, le métronome de cette partie, cette équipe angolaise. Qui est très rapide, qui est de petite taille, mais très rapide dans sa relance des jeux. Donc, il a aidé vraiment son club à faire la différence. Alors, nous allons repartir sur le terrain pour conclure ce second carton.
Pour lui, et lui va suivre juste derrière.
En tout cas, on va en rester là, 46-34. On espérait une réponse du Petro de Luanda après leur défaite initiale. On disait aussi qu'il fallait suivre ce différentiel de points. Pour l'instant, le Petro de Luanda fait le boulot et en plus de ça, eh ben pour l'instant, ils sont mathématiquement leaders de cette conférence.
Ouais, là, je trouve que c'est l'une des meilleures mi-temps du Petro que j'ai vu, pour être honnête avec vous. Ils ont tout sur le terrain, la défense, l'attaque et surtout l'envie.
46-34, c'est la mi-temps, ici, à Pretoria.
Fans, people put the PL by going to the website sthpl.com and on social media all season long using the handle @thepl.
Voilà, 46-34 à Pretoria entre l'Office de Rabat et le Petro de Luanda. L'Office qui est mené par 12 points à la mi-temps. Et donc, un match très engagé. On voit que du côté du FUS, Abderrahim Nadja, qui a 8 points, et Mohamed Sila, qui a également... qui a fait vraiment une grosse différence en entrant dans cette équipe marocaine. Et Mohamed Sila qui a donc au total 6 points et 6 rebonds. On a également Ayoub Noui qui a 2 passes décisives et qui contribue à sa manière à ce club du FUS de Rabat. C'est un match, comme je l'ai dit, très 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 engagé, où on voit deux équipes qui, au premier quart-temps, se suivaient de très près, et maintenant le Petro de Luanda qui essaie de creuser l'écart en accélérant le rythme de jeu. Et voilà, on est donc dans cette Basketball Africa League qui en est, il faut le dire, à sa quatrième édition, une quatrième édition qui a malheureusement vu le club burundais est disqualifié pour un problème avec la mention Visite Rwanda sur le maillot officiel de la compétition. Donc cette mention a donné lieu à des frictions entre le Rwanda et le Burundi, dont les relations sont tendues en ce moment, et c'est peut-être ce qui a expliqué cette situation du club rwandais de Dynamo qui finalement a été disqualifié parce que c'est les règles de la compétition. Il faut jouer avec les équipements officiels fournis pour la compétition. Donc ce refus de jouer avec le maillot officiel a entraîné les responsables de la Basketball Africa League à disqualifier le Dynamo du Burundi. Le Dynamo, pourtant un club qui était très très dynamique, qui a un grand potentiel de progresser dans cette compétition. Mais malheureusement, ce club a dû rentrer à la maison après avoir été disqualifié. C'est dommage pour le sport et la politique. Lorsque la politique se mêle du sport, ce sont les sportifs qui en font les frais. Donc voilà. Et dans cette Basketball Africa League qui continue de progresser sur le continent et en essayant de promouvoir le basketball sur le continent. Et parce que, comme tout le monde le sait, c'est le football reste le sport roi en Afrique. Mais de plus en plus, le basketball progresse et surtout à la faveur du succès des basketteurs africains ici dans NBA. Et donc, de plus en plus de jeunes Africains réalisent qu'ils peuvent aussi réaliser leurs rêves sportifs, non seulement en football, mais aussi en basketball. Et de plus en plus de jeunes essaient de s'intéresser au basketball, et avec des académies, notamment les académies de la NBA. Sur le continent, on essaie de détecter des talents et de les travailler, de les entraîner pour qu'ils puissent un jour évoluer dans les grands championnats mondiaux, notamment la NBA ici aux États-Unis. Donc c'est une très belle initiative. Nous allons retourner sur le stade avec un spectacle musical pour la mi-temps. Voilà.
Faire jouer les autres, il va prendre de temps en temps un, deux tirs, mais il n'a pas un profil scoreur. Ça c'est d'un. Et deuxièmement, tant qu'ils ne trouveront pas de l'adresse extérieure, ils vont avoir du mal.
C'est quoi la clé pour cette deuxième mi-temps, Jacques?
Oh, la clé, c'est une bonne baffe dans les vestiaires. On se réveille, on prend ses responsabilités derrière les trois points. Et si on ne veut pas la prendre, on essaye d'attaquer la raquette. On trouve bien sûr les joueurs verts.
46-34, on fait une autre petite pause et on revient.
Boss, call me brother. Rap queen and no better. And now that I listen to cheddar, heavyweight without paper. Bust a shot in your section. Shooting on the south ever. Pop a bottle for me, huh? Hey! Yo, shout out to the doctors, you guys are flying.
Voilà, Nani Talani et Timothée Doulangmaï ici à Washington pour ce match de la Basketball Africa League entre le FUS de Rabat et le Petro de Luanda, 34-46 en faveur de Petro. Petro qui mène par 12 points. Nani, on est là à la mi-temps de cette partie.
Il y a l'écart continue quand même de se creuser entre ces deux équipes parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, si Petro de Luanda veut vraiment remporter ce match, il faudra au moins gagner par une différence de points de 10 points, puisque à l'aller, Petro avait gagné avec une différence de 9 points. Donc là, il faut avoir au moins 10 points, parce que si vous êtes à égalité, c'est la différence de points qu'on va noter. Donc Petro de Luanda n'a pas vraiment droit à l'erreur.
Tout à fait, tout à fait. Et Petro semble conscient de cette réalité. On a vu une accélération du jeu de cette équipe angolaise au second quart-temps et avec comme résultat cet écart de 12 points contre le FUS de Rabat, le FUS qui semble avoir un peu ralenti au niveau du jeu.
Pourtant, c'est une très bonne équipe. Hein. C'est une équipe qui a donné quand même du fil à retordre à Petro de Luanda de temps en temps. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on est encore en plein match. Et puis, ce joueur de Petro, oui, Aboubakar Gakou, c'est quelqu'un de très impressionnant. Hein. C'est tout vraiment un pivot de son équipe.
Et tout à fait. Et Aboubakar Gakou, qui est l'auteur de 13 points dans ce match et qui joue un rôle très important. Et de l'autre côté, côté du FUS de Rabat, on a Abderrahim Naja, qui est auteur de 8 points. Il faut dire
qu'il a égalité de points avec Sylla, le jeune Mohamed Sylla.
Oui, Sylla.
Les deux sont à égalité de points, 8 points.
8 points. Et alors, il faut dire que Naja, c'est le vétéran de cette équipe
marocaine.
C'est le plus âgé et donc... Il a beaucoup d'expérience en matière de jeu et ça se voit, c'est lui le leader en termes de points dans ce club marocain.
Bon, mais en tout cas ici, le Maroc a plus que besoin de l'expérience. On a besoin de marquer de but pour égaliser Petro de Luanda. Parce que l'expérience seule ne va rien faire. Bon, il pourra certainement mettre son expérience en jeu pour essayer un peu de connaître le jeu des adversaires et aussi les contrer. C'est là qu'on pourra voir que c'est vraiment très, très important d'avoir de l'expérience.
Et là, Nanit, c'est un adversaire que le FUS a déjà défait en premier match. Donc, peut-être, quelque part, le FUS était un peu trop confiant.
Non, mais on dit la vengeance est un plat qui se mange froid.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Petro savait déjà à qui ils avaient affaire. Donc, ils se sont préparés en conséquence. Ils ont certainement revu les matchs ou le match que FUS avait remporté. Mm-hmm. Et donc, ils ont bien étudié le jeu de l'adversaire. Je me dis que c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui et maintenant, ils sont en train d'appliquer un peu des techniques un peu différentes de leur premier match pour venir à bout de leurs adversaires.
Peut-être qu'à cette mi-temps, ils vont revoir leur jeu au cours des deux premiers quart-temps et essayer de rectifier le tir. Nanich, je parlais tantôt de la Basketball Africa League qui en est à sa quatrième saison cette année en Afrique et qui est en train de faire son chemin sur le continent dans la promotion du basketball.
Et exactement, parce que quand je vois qu'il y a des Américains quand même, parce qu'ici aux États-Unis il y a la NBA qui est quand même le top des tops en basketball, mais quand on voit des Américains qui vont quand même jouer dans des clubs africains, ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel dans le basketball africain.
Tout à fait, le potentiel il est là et ça ne demande qu'à être développé. Il y a des grands pays de basketball en Afrique, je peux parler de l'Angola justement, de pays comme le Sénégal, le Mali, et même le Cameroun. On a vraiment des grands pays, et on a un pool d'athlètes dans tous ces pays-là qui peuvent évoluer en même au plus haut niveau du basketball.
Non, mais il y en a même ici en NBA. On a Joel Embiid, le Camerounais, qui joue ici. On a aussi des Congolais, des Nigérians qui jouent dans le NBA. Donc, il y a vraiment du potentiel.
C'est ça.
Mais
Et c'est dommage que dans les pays africains, on n'investisse pas dans ce potentiel.
Y en a pas assez.
La priorité, c'est encore le football.
Le football, exactement. Mm-hmm. Et le football encore, pour certains pays, pas tous les pays, hein, parce qu'il y a des pays qui sont toujours à la traîne.
Tout à
fait. Et ce sont les mêmes qui sont en avant, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, oui, les pays du Maghreb.
Oui.
Mais les autres sont vraiment à la traîne.
Et il faut aussi dire, Nanit, que si le FUS est dans ce... comment dire, cette Basketball Africa League, c'est parce que au Maroc, le sport de club est très, très organisé.
Très développé aussi, très développé. Oui.
Voilà, donc le FUS, ils ont également un club de football.
Il y a ça, c'est vrai, mm-hmm. Il y a que ce soit en handball, volleyball, basketball, football, oui, le sport est développé au Maroc.
Le sport de club est très développé là-bas. Et aussi, il faut dire que Petro... Et l'Angola, dans le temps, a aussi beaucoup investi dans le sport, dans les arènes sportives. Mm-hmm. Et on le voit dans la prestation de cette équipe de Petro de Luanda.
Donc, je souhaite vraiment pour le Maroc que les joueurs ne perdent pas le moral, qu'ils gardent le moral. Parce qu'en général, quand on commence à être distancé comme ça... que l'équipe adverse est en train de marquer beaucoup de points, on est en arrière. La tendance est qu'on est un peu démoralisé et c'est à ce moment-là que les adversaires vont marquer encore beaucoup plus de buts.
Et la qualité du jeu en prend un coup et nous, on est là pour regarder du bon basketball. Donc, on a besoin que les Marocains se ressaisissent et qu'on voit un bon match, un match très engagé. Voilà.
Yeah, parce que si on n'est pas positif, on ne pourra pas être à la hauteur.
Tout à fait.
Donc, on espère qu'en revenant de cette pause, hein, les Marocains reviendront comme on les a vus au début, donner aussi du fil à retordre aux Angolais.
Vous êtes en direct sur VOA Afrique, Timothée Donangmaï et Nani Talani ici à Washington. Nous sommes en train de suivre ce match de... la Basketball Africa League entre Petro de Luanda et le FUS de Rabat au Maroc. Le Petro qui mène par 12 points, 46 à 34 à la mi-temps. Donc c'est un score. Et pourtant au début, les deux clubs étaient presque à égalité et se suivaient de près. Mais c'est maintenant Petro qui essaie de creuser l'écart. Et donc, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui a été décidé durant la mi-temps et comment chacun des deux clubs va ajuster son jeu pour essayer de conserver l'avantage pour ce qui est de Luanda ou bien de revenir à la marque pour ce qui est du fils de Rabat, Nanit.
Yeah, effectivement. Bon, en ce moment, si je m'intéresse un peu à la taille des baskets... il y a des basketballeurs. Je pense qu'il faut quand même avoir une taille impressionnante hein, pour jouer.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y en a qui ont 2 mètres.
Oui, tout à fait, 2 mètres.
2 mètres 09, je pense que c'est Oh, quand même, Mohamed Sylla, il fait 2m09, mais il est mince par contre. C'est pourquoi on ne voit pas un peu sa corpulence.
Ben, il faut dire qu'il est jeune, donc il a encore le temps de gagner un peu de muscle. Et là, il va être encore une force plus formidable.
En tout cas, ça viendra parce qu'il fait 2 mètres quand même, c'est beaucoup. Et puis,
2m09.
Il y a 2m09, je pense que c'est le plus grand. Ici.
Tout à fait. Non, il y a
Nick
Pires Moreira.
Oui.
Ah non, lui, c'est 2m11. 2m11.
2m11, ah, oui. Donc, c'est le plus grand de tous. Et puis, on a aussi John Pedro, de Petro de Luanda, qui fait 2m08. Il y a Moreira, c'est aussi le Luanda, avec 2m11. C'est vraiment impressionnant.
Oui, et le plus court des deux camps, c'est Dondao de Petro, qui mesure 1m73.
On dit le plus court parce qu'on est en basketball.
Tout à fait.
Sinon, dans la vie de tous les jours, 1m73, c'est une taille impressionnante.
Tout à fait.
On est quand même parmi les géants.
Tout à fait.
Quand on a 1m73, mais en basketball, 1m73, c'est un peu court parce que là-bas, c'est 2 mètres. 1m90.
Tout à fait.
Yeah.
Voilà, donc on s'apprête à reprendre la partie après la mi-temps, 34 contre 46.
Yeah. On a bu de l'eau, on a bu de l'eau, on a reçu des recommandations des coachs.
Des coachs.
Les dernières recommandations aussi, les conseils.
Tout à fait.
Et aussi, surtout, l'équipe de Luanda ne doit pas encore avoir un joueur expulsé. Parce qu'avec l'avantage qu'ils ont, s'il y a un encore, parce que si un bon joueur est expulsé, ils peuvent perdre la main.
Et en fait, l'expulsion du joueur, quel qu'il soit, affecte le club au plan moral. Perdre un joueur en pleine partie, et ça vous affecte forcément. Et donc, les joueurs du Fils du Maroc doivent faire attention.
Mais les Angolais s'en sortent assez bien quand même. On a expulsé l'un de leurs meilleurs joueurs, mais ils sont en train de mener le match. Oui. C'est à féliciter.
Ah, oui.
Bon, je pense que le match a repris.
C'est un Petro qui est très dangereux. Moreira d'ailleurs également est sur le parquet, il y aura le coup de sifflet.
Ouais, c'est bien Jordan, il doit reprendre, je vais pas dire qu'il a perdu confiance, mais il doit retrouver le chemin du panier. Et surtout, il faut que ses coéquipiers bougent avec lui.
Il a une sacrée épée de Damoclès sur la tête parce que la prochaine faute le sortira du match pour quasiment tout le troisième carton et une partie du quatrième.
Tout à fait. Du coup, il va devoir défendre. Il peut sur Dundao, il faut faire très attention. Heureusement, il y a Brown qui s'occupe de Dundao. Mais s'il se fait poster ou quoi que ce soit, il va devoir faire très 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 attention. Ou bien il va devoir avoir besoin de l'aide.
Sinon, il peut demander à Cartier Diarra aussi. Comment on fait, hein?
Oui. Le meneur des Cape Town Tigers. Et le lancer franc va être recommencé. Ça fait deux fois déjà dans cette partie. Celui qu'on aimerait voir un petit peu plus offensivement, c'est Diarra également, qu'on n'a pas beaucoup vu, Aliou Diarra.
Oui, mais on l'a pas vu, il va pas jouer en un contre un. Alors contre la zone, c'est un petit peu difficile pour un big man de s'exprimer, parce que on était ou bien dans une 2-3 ou bien 1-1-3 comme l'avait dit Malik. Donc il a toujours lui en fait deux joueurs qui l'attendent. Il a besoin qu'il y ait une construction offensive qui vienne de la tête de la raquette pour pouvoir trouver une opportunité.
Donc c'est un choix tactique à deux têtes, disons. D'abord pour obliger le FUS à jouer à trois points et aussi un petit peu pour gêner Diarra.
Oui, parce que vous êtes à trois dans la raquette en fait. Vous avez un joueur au milieu, vous avez deux joueurs sur les blocs, donc vous avez vraiment quadrillé l'anneau. Voilà, vous avez vraiment. S'ils ouvraient les bras, à mon avis, ils pourraient prendre toute l'envergure de cette raquette.
Et ça fait deux de suite pour le FUS de Rabat. John Jordan désormais qui inscrit ses premiers points. En tout cas derrière l'arc. Oui. C'était son premier shoot du match, pardon.
Et c'est surtout l'agressivité. Attention, la défense, Gakou, Diarra.
C'est un facteur ici.
Il va se prendre une violente Aliou Diarra, parce qu'il y a quelque chose dans la pénétration. Alors c'est pas que sa faute, mais il y a la pénétration et puis il doit savoir qui a gagné, qui a ouvert.
Et après à peine 2 minutes de jeu, Saïd El Bouzidi demande un temps mort, ça fait 16 points pour Aboubakar Gakou, qui est très clairement le facteur X aujourd'hui, alors qu'on revoit cette pénétration d'Anthony Nelson. 56-42, nouveau temps mort dans cette rencontre.
Voilà, Nanit, 42-56 en faveur du Petro de Luanda. Cette partie se poursuit.
Yeah, mais quand même, l'écart se réduit. Ils n'ont plus que 6 points d'écart.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Yeah, parce qu'à un certain moment, ils étaient comme à 9
12 points, en fait, 12 points, points au retour des vestiaires. Des vestiaires. Donc maintenant, il n'y a plus que 6 points d'écart.
Bon, on voit bien qu'il allait prendre les bons conseils. Apparemment, c'est le Maroc. Hein. Ils sont venus donc appliquer ce que leur coach leur a dit. À
non,
peine
en
quelques...
fait,
oui?
Nanit, non, nous devons retourner à l'école primaire pour notre arithmétique parce qu'on a 56-42, donc ça fait en fait 14 points.
Oh, c'est 14 points.
14 points d'écart.
Ah, d'accord,
oui.
D'accord. On a oui. Mal calculé.
Nous devons retourner à l'école primaire.
On a mal calculé. Donc, si le Rwanda continue sur cette lancée.
Et Luanda, oui.
Ça sera bon signe. Mais concernant la possession de ballon, il n'y a pas beaucoup de différence. 82%, je pense, pour.
Oui,
pour le Maroc.
Et le taux de réussite au tir, 82% pour le FUS.
Et Petro, 81%. Mm-hmm. Mais pourtant, c'est Petro qui est en tête.
Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut dire qu'au niveau des lancers, des points, le total de réussite, 52% pour le Petro, 37% pour le FUS. Au niveau des 3 points, taux de réussite de 38% pour le Petro contre 15% pour le FUS.
Pour le
donc,
FUS, yeah.
Et cela fait la différence dans ce match.
Exactement.
Voilà. Et maintenant, nous allons retourner sur le terrain.
Il n'a que 22 ans. Il aura ses 23 ans le 31 décembre, il me semble.
Oui, c'est ça, Malik. Vous avez raison. En tout cas, le toucher d'Ayoub Nouri. Pour ramener le fils à 12 points.
Ouais, un beau flotteur sur cette action-là qui n'était pas facile. Hein. Et je vais vous dire juste pour revenir sur cette action de Nouri. Si moi je suis la défense angolaise, je suis très content de cette action-là. Parce que je n'ai pas laissé un layup jusqu'au bout. Ça a été vraiment quelque chose, un teardrop.
Ah, il se plaint d'une poussette, effectivement, Ken Brown. On l'a un petit peu vu.
Mais ils discutent beaucoup, ils discutent plus. Ils discutent plus aujourd'hui qu'on les a vu discuter à travers tout le tournoi.
Voici les cours, Aboubakar Gakou. Nouri. Ok,
il veut aller jusqu'au bout, il veut aller jusqu'au bout.
Oh, bonne et Diarra, toujours ouais. Pas.
Mais Gakou était là pour l'ennuyer hein, au bon moment.
Oh, il est passé.
Ah, ben voilà.
Oh, la vitesse du meneur du Petro de Luanda.
Et là, on avait les trois plus petits joueurs sur le terrain. Un en attaque, les deux en défense. Et il fait la différence.
Et John Jordan, ça ne rentre toujours pas.
Il va falloir un radar de limitation de vitesse. Là.
Seulement deux rebonds pour Aliou Diarra ce soir aussi.
Ouais, qu'il a eu en début de match lors du premier de la première mi-temps.
Maurice.
Regardez comment ils prennent leur temps. Et ils sont pas ennuyés, ils sont pas agressés. La défense du FUS, je la retrouve pas moi, cette défense qui était agressive.
Et sans faire de faute, Diarra, le ballon va être rendu. Je crois au Petro, mais il reste 6 dixièmes.
Regardez le ballon de coast to coast. Alors il est défendu par Ken Brown.
Alors, ne réglez pas vos téléviseurs, hein. C'est la vitesse normale. C'est juste que ça va très vite.
Allez, fantastique, Léo. Quand il est en ligne droite, comme ça, il est inarrêtable. Il sait où il doit aller, puis il est explosif au premier pas, mais aussi explosif sur le dernier pas.
Ça n'entrera pas de toute façon pour Moraes. Fin de la possession, il restait 6 dixièmes, on l'avait dit. Toujours 14 points d'avance pour le Petro. On rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que le FUS ayant gagné de 9 points, ils peuvent perdre de 8, ils peuvent perdre de 7,
ouais,
c'est pas grave. Donc
bien
au final,
L'écart au score aujourd'hui n'est pas si dramatique, disons.
Regardez la défense. Regardez la défense. On pousse vers la raquette, vers Pedro.
Ah, Nui.
Et il hésite, il hésite.
Ouais, pas les prendre.
S'il... Oh, il s'en sort bien.
C'est pas grave.
Il s'en sort bien, Nui.
Il a raison d'applaudir.
Il a une assise sur le coup. Il a bien raison, mais à un moment, il doit les prendre.
Mais non, mais Jacques, ça c'est la passe d'un joueur qui n'a plus confiance dans son tir.
100%.
Exactement. Il doit savoir qu'à un moment ou un autre, on va le laisser ouvert. Et il doit déjà mentalement se préparer.
Ils font du bien aujourd'hui. Tundao et Gakou, qu'est-ce qu'ils font du bien. Ça fait 14 pour Dundao, maintenant il y en a 16 pour Gakou. 30 points sur ces deux joueurs-là. La moitié de l'équipe du Chétro. Nui, bah cette fois-ci, voilà. Il le prend.
Voilà, il faut, voilà. C'est exactement, il faut y aller.
Nelson.
On peut pas fuir cette responsabilité du shot à 3 points, surtout quand on est un extérieur. Ah, bonne défense de Zuita qui est remonté. Attention, est-ce qu'il va rester sur les jambes?
Il a deux fautes, Zuita, attention. Oh, il est passé, Nelson. Dundao à 3 points.
Oh, encore une fois,
la presse de Dundao avec le petit regard en direction du Bonifus.
C'est pas le même Petro qu'on a eu lors du premier match. Ils sont arrivés avec la même rage, justement. Je trouve que le Fus, aujourd'hui, que le Fus avait lors du premier match, ils sont vraiment dedans. Regardez la défense. Regardez comment il est déjà là, Dundao. Soken Brown. Oh, bonne défense de Pedro aussi. Les big men qui font son effort sur les jambes.
Il y a 3 points, ça ne rentre pas.
Eh ben, boxing out, il va pousser.
Et le Petro qui est en train de faire ça avec Moreira et Jason Gonçalves sur le banc, deux joueurs clés.
Je suis d'accord avec vous. Mais ils ont un Gakou qui est agressif, qui a été présent en compte, qui est présent en bon. Et puis on l'a vu sur cette action, l'envie de Pedro de rester sur ses jambes.
Ouais, magnifique.
Et Dundao qui fait du mal. Alors si... Quand il pousse le ballon, il fait déjà, regardez, sur ce genre de mouvement-là. Regardez comment ça monte bien haut, il n'y a personne qui peut arrêter ce mouvement. Mais quand tout d'un coup, il met ses 3 points, mesdames et messieurs, c'est compliqué.
Dundao a mis 19 points en cumulé dans cette compétition en 2 matchs, il en a 17 ce soir. Benmin Nui.
Ouais, au milieu de la raquette.
Bah, tout simplement parce qu'il y a eu une passe en poste haut. Voilà, c'est une des solutions contre la zone.
C'est vrai qu'on l'a attendu depuis de très très longues minutes, cette première action de Diarra et aussi cette passe au poste haut.
Mais il est bon, Zuita, quand il est comme ça, capable de créer son jeu de passe, comme vient de le dire Malik, il s'est positionné juste au bon endroit, il a la sensation de la passe. Ça commence à faire mal. C'est shot à 3 points.
Plus 17 pour le Petro de Luanda.
Oh, c'est compliqué. C'est compliqué parce
que... Vous avez passé.
Ouais, mais regardez la défense. C'est compliqué parce que quand le Fus, on a l'impression, a eu une, voire peut-être deux belles actions d'affilée, regardez ce qui se passe. Juste derrière, et il y avait, effectivement, on n'a pas, mais il semblerait vraiment que Diarra fût dans son espace national.
Pas sûr.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est?
Il a déjà pris une faute technique pour du flopping.
Oui, je suis d'accord.
Dans cette conférence.
Mais je continue à dire, vous avez tout à fait raison, hein, que c'est très difficile quand vous êtes un shot à 3 points où il y a quelqu'un qui vient vers vous, de rester neutre dans la manière où vous allez retomber. Parce que vous regardez ce défenseur-là, et quelque part, regardez, voilà, regardez Zuita, le 2 contre 1, c'est sur Pedro, mais il va la chercher. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est haut!
Voilà, les lancers qui ont mis un petit peu fin.
Et regardez ce pressant, on l'a eu tout le temps lors du premier match.
Et la faute offensive contre Moraïs.
Voilà une activité défensive.
Quatrième faute de Moraïs, attention. Parce qu'on parlait des fautes côté Fus, mais celle-là, elle va faire mal aux vétérans du Petro de Luanda.
Mais combien de fois on a vu cette action-là? On l'a vu perpétuellement lors du premier match. À 3 quarts.
C'est un petit peu sévère.
Non, c'est un petit peu sévère, mais ce que je veux dire par ça, c'est le 3 quarts défensif. Pourquoi? On a un bon panier, on est positionné en défense et on peut mettre la pression qu'on aime.
On a vu des bras sortis, beaucoup plus sortis, bref, qui ne donnaient pas forcément de faute offensive.
C'est peut-être pour ça que Nui, il est parti directement. Il n'avait rien dit.
Il y avait bien poussette.
Il y avait poussette, gars. Je dis pas qu'il n'y avait pas, hein, mais je dis qu'on en a vu des pires.
Ah, c'est important. Toutes les attaques sont importantes pour le Fus.
Benmine qui attaque le cercle, qui va ressortir, qui offre le ballon à Nelson.
Oh, il est passé par. Oh, Nelson!
Et quand tu fais pas derrière, pas de
lui! Et
le camp du fus!
Et ça court!
Benmine à 3 points!
Oh là là! L'action du match! La grosse action du match! Quel jeu d'équipe! Et je peux vous dire, c'est ça que dont les Angolais ont peur, c'est cette fameuse contre-attaque, cette fameuse envie de partager le ballon. Benmine qui a été trouvé un Diarra qu'on sait hyper agressif.
Ben voilà, perdu deux stops consécutifs pour le FUS. Nous, il y a
Zuita qui coupe la raquette. Oh, c'est dommage, mais il y a quelque chose.
Oh, un coup défensif, bien sûr.
Et bien joué de Gassou. Ouh, ils s'en sortent bien, le Petro, encore une fois, dans les jambes du FUS.
Troisième faute pour Zuita.
Regardez, oh là là, la grosse tartine. Et puis derrière,
deux fois Gaku.
Regardez Zuita.
Alors malin.
Ah oui.
Et derrière, ça donnera un ballon plus facile.
C'est l'un des plus longs replays que j'ai jamais vu. <C'est rire> Parce que derrière, regardez ce qui se passe. Oh là, c'est majestueux. Ça, c'est du beau basket.
Trois fautes pour Zuita maintenant. Et mine de rien, le FUS revient et se continue à se bagarrer. 13 points d'avance pour le
Petro. Il est passé. Il n'y a pas de faute, Bien vu de l'arbitre. Il n'y a pas de faute.
Ken Brown, il y a 2 contre 1, oui. Gonçalves, le ballon contre-attaque. Dundar. Nelson, 3 points, 4. Tac. Et Gaku.
Oh, voilà. Gaku, Gaku, en mode guerrier ce soir.
Messieurs, c'est la block party.
Ah, clairement, très clairement.
Ce soir, Gaku, c'est le Terminator dans la raquette.
Ça faisait si longtemps qu'on attendait un vrai match référence pour Gaku.
Oui, vous avez, oui, exactement.
Et Zuita qui peut-être pas finir en 2 fois, 3 fois, 4 fois, combien de fois?
Ah, il arrive pas aujourd'hui, Zuita. Il a eu des belles actions, hein. Mais il n'arrive pas à sortir.
Et il a surtout du mal à revenir. Hein.
Bonne passe pour Gaku.
Ah voilà, Gaku.
Ah, mais malheureusement, ils ont défendu à 4 sur cette position.
Mais oui. Alors, ils courent, mais ils n'ont pas le pourcentage qu'ils voudraient avoir. Et puis de l'autre côté, malheureusement, et heureusement pour les Angolais, ils sont justes dans ce qu'ils font.
Oui. Et pas mal, non, j'allais dire, finalement. Et la grosse
différence. Ils sont fatigués. Mais ils sont fatigués.
Hein, et Diarra ne prend pas un rebond offensif ce soir.
Ils sont fatigués, le FUS. Regardez quel calme, quelle patience offensive.
Dundao. Oh, Dundao avec la faute. Lancé à suivre. Il fait un match de patron, Tilde Dundao, ce soir.
Il était dans notre clé. C'était le joueur dans le joueur d'impact qu'on avait besoin. Qu'il soit réveillé. Gaku aussi faisait partie de ces joueurs-là. Qui devait être beaucoup plus présent. Mais regardez la belle action défensive de Gaku. Oh, il a été naïf, hein, Noui, sur cette action-là. Puis de l'autre côté, regardez, le petit flotteur. Alors, quelques petites feintes pour s'assurer que le joueur malien ne peut pas se préparer à le contrer. Et la finition, il a raison. Il a raison parce qu'il est impressionnant.
Mais je ne le trouve pas très, très saignant ce soir sur le plan physique, hein, Aliou Diarra. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
À 100%, Malik. À 100%. Aucun joueur du Petro de Luanda lors des 2 premiers matchs n'avait dépassé les 20 points. On en a 2 déjà ce soir.
Ouais, je suis d'accord. Pour venir sur ce que Malik a dit, il y a une réalité sur cette fameuse BL, c'est que vous devez reposer vos joueurs à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, messieurs, on se pose aussi la question, pourquoi est-ce que Diarra est encore sur le terrain, etc. On sait que ces conférences, elles sont longues, ça demande du caractère et de la résilience, et à un moment, la fatigue vient de s'installer, et je me demande si Diarra, qui était descendu une fois ou deux, qui disait non, j'ai envie de remonter, je me demande, ça commence pas à lui peser dans les jambes.
Et pourtant, on sait qu'il y a eu des matchs annulés.
C'est vrai, exactement.
Bon, on va pas leur trouver des excuses, mais j'avais posé la question à El Bouzidi. Est-ce que le ramadan ne peut pas avoir un effet sur votre fraîcheur physique?
C'est vrai qu'ils ont quelques jeunes quelques minutes avant le début du match.
Oui, mais Malik, je pense que c'est vrai, c'est pas une excuse, c'est juste vrai. Si vous n'avez pas l'opportunité de vous nourrir de la manière habituelle avant un match comme celui-ci,
oh, bien joué, superbement bien fait. Parce que le contre de Gaku arrivait encore une fois.
Il a même touché le ballon.
On a eu 2-3 petites pénétrations intéressantes des gardes qui arrivent maintenant à arriver au centre de cette défense.
Et Benmine qui se plaint d'être coincé par le bras de Dundao. Il y aura des lancers en tout cas à suivre.
Vous savez, quand je regardais les statistiques lors de la première mi-temps, si ce n'est vraiment pour les shots à 3 points, 0 sur 11, le FUS de Rabat qui était à moins 9, moins 10, avait une opportunité de revenir parce que c'était vraiment tout ce qui leur manquait. Ils étaient présents au rebond, ils perdaient 19 à 20 au rebond. Leur joueur ne jouait pas spécialement bien, mais voilà, c'était surtout un pourcentage à 3 points. Mais là, tout d'un coup, il y a la vague qui commence à devenir de plus en plus grande et c'est très compliqué.
Gakou. Oh, le ballon est récupéré par le FUS.
Ouais, Najak a fait l'effort. Oh, belle feinte.
Azouga, oh, c'est difficile. Oh, c'est difficile ce qu'il a fait.
Azouga, dans cette raquette, on sait qu'il n'est pas tout à fait à l'aise, mais c'est surtout de l'autre côté à 3 points. Regardez, alors on va pas voir son petit fait de haut. Mais je crois qu'il est content de se sentir avec ça.
On va venir au direct. Nelson.
Oh là, qu'il est loin.
Oh, Nelson. Qu'il est loin. Ce troisième carton pour mettre encore un peu plus la tête du FUS sous l'eau. 75-57. Ouh, le Petro est en train de prendre les devants sérieusement dans cette partie.
Et Nelson, on l'attendait pas comme ça. Il n'avait pas eu vraiment de gros matchs aujourd'hui. Je trouve qu'il a bien joué avec le ballon en main. Et off, sans ballon en main, il a été solide.
Fin du troisième quart-temps ici à Pretoria. On va faire une dernière petite pause. Mais restez avec nous parce que ce match ce soir en vaut vraiment la chandelle.
C'est la fin donc de ce troisième carton du côté de la Sandbet Arena à Pretoria en Afrique du Sud où se joue ce match de la saison 4 de la Basketball Africa League entre FUS du Rabat mené 57-75 par Petro de Luanda. Nanit Talani, on t'a entendu crier « Waouh !» Ça veut dire que ce troisième carton là est fini?
Non, non, la dernière action était juste impressionnante.
C'est pour ça qu'on aime le basket en fait.
Après, il y a eu aussi le Malien Diarra.
Diarra, non, ouais.
Il a aussi, Diarra. Voilà, il a aussi marqué, mais c'était aussi époustouflant.
Donc c'est dire que c'est un bon match de basket que tu suis. Il reste encore 10 minutes à jouer. Si on pourrait prolonger, ça te ferait du bien. Hein.
Non, franchement, je me régale. C'est vraiment un régal. C'est un très beau match.
Alors, Cheikh, on le voit, hein, cette équipe de Petro, dont on parle très souvent, semble totalement réveillée. Elle mène quand même 75-57 devant FUS de Rabat, qui était de loin la meilleure équipe, dans cette conférence Kalahari. C'est-à-dire que les Angolais sont peut-être de retour.
Absolument, Yacouba. Il veut vraiment se rattacher. Il veut se redigne.
Ouais.
Il veut se redigner.
Il veut
se racheter de ce qui s'est passé le premier match. Et quand l'équipe FUS est venue les boxer à la bouche depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment un moment de voir l'équipe Petro. Ils se disent maintenant qu'ils ont la chance de vraiment gagner et puis se rejeter comme ils le font. Mais c'est pas fini, Yacouba, encore. Il y a une carton de la vérité.
La vérité.
Ça, c'est le carton de la séparation. Nous avons très bien. Presque 20 points d'écart. Bon, à te rappeler, Yacouba, que quatrième carton, c'est là où on voit que les joueurs sont fatigués. Et c'est là où on voit que la fatigue vient, on sent la fatigue.
Oui, mais après, c'est aussi le moment où les joueurs peuvent tout donner, quoi. Parce
Absolument.
Qu'ils savent que c'est vraiment, c'est le dernier
c'est
moment.
C'est le dernier cartouche.
Il faut tout donner si vous voulez l'emporter. Donc, ils peuvent aussi dépasser la fatigue, quoi. Parce qu'en réalité, parfois, c'est mental.
Ouais, absolument. Nous voyons une équipe angolaise très engagée, Yacouba, quand même, depuis. On voit l'esprit, même le moral de l'équipe qui est très bien engagée, qui sont prêts même à gagner ce match-là.
Mais écoutez, on va repartir du côté de la Sandbet Arena pour ce quatrième et dernier carton entre FUS du Rabat et Petro de Luanda. On se retrouve bien sûr sous peu.
On n'a même pas une opportunité à 3 points.
Jordan qui va
bien jouer Nelson. Ouais, qui a fait la rotation jusque tout en bas baseline.
Vous savez que j'ai un faible pour les gauchers, alors je peux vous dire que Nelson, il me séduit ce soir.
Je suis d'accord avec vous.
Il fait de très très loin sa meilleure performance. 9.4 passes pour Nelson en 17 minutes qu'on avait trouvé un petit peu timide, un peu en dedans lors des premiers matchs.
En même temps, il était monté à des moments où il n'y avait pas beaucoup d'énergie dans le groupe, donc on peut mettre ça en fait. Mais aujourd'hui, le voir aujourd'hui, je trouve qu'il prend beaucoup de bonnes décisions et sa taille, il a été juste dans sa défense, comme là le gros effort défensif qu'il vient de faire.
José Neto s'était plaint de ne pas avoir pu travailler réellement avec son groupe au complet parce qu'on sait que la fenêtre de qualification avait envoyé certains joueurs par-ci par-là. Les étrangers sont arrivés tard. Oh là là, nouveau ballon perdu.
Ah, ça c'est
Lefus. Sensationnel. Oh là là, la hauteur, non.
Ah ben voilà. Qu'a suivi. Ben oui, bien sûr, Bouyamba, qui a bien fait courir. Encore une fois, on avait trois petites. Alors ça, c'est ennuyant sur la transition défensive. Parce que vous jouez quasi avec trois joueurs qui ont la même tête du côté du FUS.
Bah, ce qui est le plus frustrant, Jacques, c'est que Jonathan Jordan qui fait un saut comme ça et derrière, il n'est pas aidé par ses partenaires.
Il n'est pas aidé, il n'est pas... Oh, regardez, deuxième contre-attaque. Oh, ben, bien sûr, Ndao. Oh, démonstration.
Oh, il y a plus 22, il y a le feu.
Oh oui. Oh oui, que ça fait mal.
Azuga. Pour Benmin maintenant.
Regardez, regardez, on ne voit pas les 3 points. Donc maintenant, on pousse
Naja.
Bien joué de Naja,
la faute.
Alors à un moment, j'ai cru que Silla allait remonter sur le jeu. Ben voilà.
Dans le si vous êtes demandé.
Oui, oui, exactement, mais je pensais qu'il est.
Non,
ah
c'est
non, il a été envoyé. Et le coach, bon, le coach Apator, là, je pense qu'il veut plus avoir ses gars expérimentés pour peut-être même avoir l'opportunité de jouer dans une telle situation.
Gerson, Gonçalves, ça ne rentre
pas. Il pouvait faire mal celui-là.
Pas. Mais ils sont en rebond offensif. Et Bouyamba qui attaque.
Oh, et Gakou est encore là. Et il en veut, Gakou.
Oh, il est en train de faire son meilleur match depuis peut-être 2 ans dans cette Basketball Africa League.
Oui, il est passé, il est passé.
Ah, il y avait peut-être un bras tiré.
Mais bon, Gakou comme Naja, ça va au sol, c'est un véritable combat, hein, de mastodonte.
On a le ballon dans les mains d'Anthony Nelson, Gakou. Salves,
pas beaucoup en bas,
à 3 points.
Combatif, hein, Naja, avec ce qu'il a.
Il est passé, Benmin, les appuis décalés, il y aura la faute lancée à suivre. Mais il continue à se bagarrer.
On joue avec 3 petits du côté du FUS. Regardez, ils ont quasi la même taille. On a du mal à faire jouer Nui parce qu'il n'a pas vraiment pris de shot à 3 points. Il n'a pas vraiment été menaçant. Quelques beaux efforts défensifs. Mais là, on a besoin justement, on arrive à 59-79. On a besoin d'avoir des shooters à 3 points. Mais comme on n'a pas Nui sur le terrain, comme on n'a pas Bayern sur le terrain, tout d'un coup, on est vraiment avec 3 petits gardes. Donc là, si on n'est pas capable d'enflammer l'attaque, en défense, on risque de patauger un petit peu.
Bon, en même temps, Bahiri, il a pas porté grand chose, hein, Jacques.
Non, c'est vrai
qu'on
a été moyen.
Mais, le joueur comme Bahiri, s'il vous met son premier 3 points, en fait, il gagne du temps de jeu à chaque fois qu'il met un 3 points.
C'est un shooter en série, alors.
Voilà, exact. Chaque fois qu'il met un 3 points, on va leur donner. Mais aujourd'hui, il a eu du mal défensivement. Et puis, offensivement, il n'a pas mis de shot à 3 points. Donc, à un moment ou à un autre, on n'est pas certain comment on va pouvoir l'utiliser.
Aliou Diarra n'a que 4 points pour l'instant. Nelson.
Ah, il est à l'aise, hein, Nelson. C'est un véritable meneur de jeu. Et puis là, je trouve que sur les actions en écran, ah, il est beau à voir.
Ouais, ça ne rentre pas, mais son petit pas de côté, là, c'était pas mal du tout pour se créer un peu la séparation. Jordan.
Oh, quel jump shot!
Oh, et voilà Diarra qui surgit!
Et ça, c'est l'action qu'on avait vue. Jordan qui trouve son petit shot mini-distance avec son jumper qui est quasi inarrêtable. Regardez à quelle hauteur il va monter parce qu'il a Pedro devant lui. Et puis derrière, finalement, et une fois, on oublie Aliou Diarra au rebond offensif.
Dundao, l'écran de Johnny Pedro. On lui redonne le.
Oh, le trait par Diarra.
Oh non faute.
Oui, il vient un petit peu tard là. J'avais pas l'impression qu'il y avait du contact au corps.
Ouais, on demande un review hein, sur le banc.
Il n'y en aura pas.
On va pouvoir avoir l'action. Alors sur le coup, non. Attends, bon, ça c'est le premier angle, mais
en tout cas sur la main il n'y a pas faute.
Ouais, et puis j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu autant de contact au niveau du corps.
De ma position en tout cas, je peux vous dire que au niveau du corps il n'y avait pas grand chose.
Il n'y avait pas grand chose. Et c'est dommage pour Aliou Diarra qui avait eu deux actions d'affilée.
Sur chaque lancée, on voit les points serrés du côté du Petro de Luanda.
Ouais, qui avance sûrement. Ça a été trois quarts temps et demi où on a quasi été parfait.
Et Azouga qui va aller chercher ses points sur la ligne lui aussi. Et le Petro de Luanda fait tout ça, mon cher Jacques. Sans Cummings qui a joué 5 secondes et qui a été éjecté.
Oui, ils montrent aujourd'hui qu'ils ont vraiment un banc profond.
Et sans Moreira aussi. Hein.
Sans Moreira, c'est ce qu'on disait au début du carton. Pas de Moreira, Moraes gêné par les fautes.
Non mais franchement, on parle des exploits offensifs des joueurs, mais si vous regardez à quel point cette défense de zone 2-3 bouge, avec Bouyamba qui vient suppléer, Nelson Kan, il monte sur la tête de raquette, c'est excellent à voir.
Ils ont vraiment bien géré cette zone. Et puis le fuse de Rabat quand même.
J'ai encore une de mes questions comme d'habitude. Est-ce qu'ils ont très bien préparé ce match-là ou pas assez le match d'avant?
Ouais, je pense qu'ils étaient au niveau. Moi je les ai trouvés plats parce que l'agressivité on peut la gérer. Et j'ai trouvé que le fuse était extrêmement agressif et j'ai trouvé que le Petro était un petit peu plat, il n'a pas vraiment répondu. Alors au niveau de la préparation, ça n'a pas spécialement à voir la préparation. C'est peut-être aussi des joueurs qui pour la quatrième année d'affilée sont à la BAL et qui pensent qu'ils vont pouvoir avancer, même s'ils savent que les équipes marocaines ont un très bon niveau.
Mais le scouting aussi de Neto a été très très bon.
Et la main gauche encore une fois de Nelson, ça ne rentre pas. Et là on va pouvoir accélérer le jeu. Belmine, bien joué Diarra.
Oh la belle patte. Et je peux vous dire que Bouyamba, il a eu raison de sauter sur la première intention. Parce qu'on sait que Diarra est capable de s'arrêter sur une pièce et de rapidement monter. Et très très bien joué d'Aliou.
De s'arrêter sur une pièce. J'espère que vous voyez ce qu'il veut dire, Malik.
Non, non, pas du tout.
Normalement, je peux toujours compter sur vous, Malik.
Oui, mais bon, quand je peux, je vous défends, Jacques.
Au contraire, bien sûr, il y aura le petit avant sur une pièce de monnaie, vous voulez pas.
Exactement, voilà, mais exactement. Mais moi, je suis parfois pris par les événements, donc j'ai besoin d'aide, messieurs.
Et puis, pris par les événements, par les émotions, et on en vit ce soir parce que ce match est quand même.
Regardez Nelson, comment il a été enfumé, son défenseur. Oh là 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 là, ouais, bien joué. Et le ballon m'avait l'air d'être en phase descendante. Oui, mais il y a la faute, mais il a lâché le ballon. Parce qu'il est vraiment.
Bien sûr.
Et pour l'instant, que ce soit au niveau agressivité, que ce soit au niveau logique défensif, que ce soit au niveau touché à 3 points, et puis dans les actions individuelles où vous dites que vous avez finalement pu les isoler et que le temps est à votre avantage, eh ben ils arrivent à s'en sortir. Ils ont été chercher très 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 loin le Petro et ils nous ont fait un basket vraiment flamboyant.
Et même dans l'intensité aussi.
Oui, tout à fait.
Mais ce qui est fascinant ce soir, si on prend d'un point de vue statistique pur, sur Moraes, Moreira et Gonçalves, on a 6 points accumulés.
Regardez, elle est très très haute et c'est Malik qui le disait. Regardez comment elle est haute. Regardez, il a à peine reçu le ballon.
Benmine, le flotteur de Benmine. Et encore une fois, le rebond récupéré par Johnny Pedro.
Gros match défensif de Johnny Pedro.
Ouais, vous avez raison, Malik.
Voyons, Benmine qui essaie de faire le même travail. Regardez, de mettre en boîte Dundao, mais ça c'est compliqué de mettre en boîte. Vous allez souvent perdre plus d'énergie qu'autre chose. Ouh, il est passé. Oh, non, c'est pas possible.
Il n'y aura pas le coup de sifflet, fin de la possession. Mais... Là, par contre, il y a quelque chose.
Ah, il est futé. Il est futé, Gilles de Dunard.
Oui, mais là, ça pourrait être une faute qui va loin parce qu'il y a vraiment.
Est-ce qu'il n'y aura pas anti-sportif?
On va voir.
Est-ce qu'il est au sol? Est-ce qu'il empêche Diarra de se relever?
Ah oui,
de partir.
Clairement.
Alors, on le touche pas sur le toucher, ah oui, on le touche sur la finition, il peut pas retomber bien sûr là.
Et ça va être revu par les arbitres, monsieur.
Regardez, regardez, là on va pouvoir voir où est-ce qu'il en est. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oh là 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 là, à l'ancienne.
C'est un petit futé.
En ce moment, en NBA entre guillemets.
C'est ce point d'écart toujours, mais 7 si on prend le différentiel via le match d'avant. Rien n'est perdu pour le FUS pour l'instant.
Et le FUS qui pour l'instant arrive à répondre. Alors ça arrange pas spécialement les affaires, parce que vous avez dit le score 67-83 reste voilà, assez impressionnant, mais on a quand même eu un FUS qui a pu prendre voilà, certaines responsabilités, certaines opportunités en jouant avec trois petits. Mais de l'autre côté, je trouve qu'il le paye justement de jouer comme ça avec trois petits joueurs de poche.
Ça prend un peu de temps de revoir cette action manifestement. En même temps, c'est un moment important. On est à 5 minutes de la fin de la rencontre.
On a vu il y a eu des retournements de situation. L'équipe des Tigers qui sont revenus lors de le premier match contre le Bourdin sur 4-5 minutes. Donc, on va encore tout voir. Il était frustré pour moi, Dondao. Il pensait qu'il allait sortir avec la faute après le flotteur. Ça, c'était le genre d'action que vous pouviez faire il y a 10-15 ans, qu'il n'y avait pas encore toutes les caméras. Non mais c'est vrai, parce que vous saviez que c'était trop difficile de lire l'action. Mais là, aujourd'hui, on va sur la caméra. Enfin, en tout cas, je pense que vraiment, on va pouvoir voir qu'il a empêché Tiara de se dégager.
Okay. Bon, c'est une faute normale.
Ah bon.
Ah, c'est il n'y a pas d'anti-sportive.
Parce que les Marocains sont en train de dire à l'arbitre, ils disent, attendez, vous déconnez. Ils n'ont pas dit comme ça, mais vu les visages, on peut imaginer.
Non. Mais je suis étonné, parce que pour moi, les...
Je suis étonné aussi.
Ouais.
On est dans le money time de cette rencontre.
Regardez la défense de zone, on va le redire, très très haute. Et on se déplace très très vite au sol. On accepte la pénétration, on sait qu'ils jouent avec trois petits, donc ils vont devoir se prendre un Pedro qui est en plein milieu de la raquette.
Oh là là, quelle erreur encore une fois, la mécontente.
Et Azuga qui pointe du doigt son coéquipier, il revient en défense.
Gonçalves, toujours pas d'adresse, rebond pour Diarra. John Jordan, ils sont à 3 et Azuga, oh Azuga avec la faute, Azuga.
Ce gars qui se reprend très très bien, mais regardez-le, il est en train de... Oh, il est encore sur l'ancien play, mais là il termine bien. Et Dundao qui fait une belle action, il sent... Oh, Dundao, il est en haut.
Il est courageux.
Hein. Oui, mais il était là en l'air, hein, Dundao.
Parce qu'il y a 40 kilos de différence entre les deux.
Et c'était pas Diarra non plus.
C'était pas Diarra, 36 kilos de différence entre les deux. Le FUS est revenu un peu au contact.
Oui, le FUS revient en contact. Le FUS commence à trouver quelques opportunités offensives.
Vous suivez donc cette rencontre de la Basketball Africa League, toujours du côté de la Sandbet Arena de Pretoria. Check, on l'a vu. Les Angolais sont nettement au-dessus, même s'il faut le reconnaître. Il y a un effort hein, du côté de FUS de revenir dans cette rencontre-là, notamment avec un Aliou Diarra. Quelques petits dunks au passage, comme d'habitude.
Absolument, Yacouba. Nous avons vu cette équipe ne veut pas perdre ce match-là et essayer de vraiment remonter à la dernière minute. Mais ça risque d'être trop tard de vraiment essayer de gagner un match qui a seulement au moins de...
Il y a 83-69.
Moins de 4 minutes. Ça va être difficile, mais on veut quand même voir un jeu compétitif jusqu'à la fin. Et comme Nanit l'a bien dit, ils sont en train de vraiment bien jouer depuis le début à maintenant.
Et puis, je pense aussi que ce que les Marocains essaient de faire, c'est de réduire la différence de points, parce que ça va beaucoup jouer aussi. puisque eux, ils ont gagné avec 9 points de différence.
C'est ça.
Et s'ils peuvent aussi réduire, arriver à 9 points de différence, ben là, ouais. ça va changer la donne, quoi.
Et effectivement, à l'issue de ce match-là, ce serait 2 victoires pour Petro de Luanda et 2 victoires pour Fus du Rabat. Et donc, ça va se jouer au gré de la virage, comme tu dis.
C'est vrai que donc, peut-être qu'ils ne vont pas gagner. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner, mais ils essaient un peu de réduire cet écart de points, quoi.
En tout cas, c'est juste comme point de vue. Ça a repris du côté de la Sandbet Arena où nous retournons tout de suite pour la suite de cette rencontre.
Ils sont résilients, le Fus, parce que je peux vous dire. Alors, ils en sont encore loin, mais là, il y a peut-être un petit souffle qui va dans leur direction. Regardez l'agressivité défensive de Diarra.
Nelson. Kouyamba qui a refusé le shoot.
Bonne défense d'Ali. Il s'est pas réussi à voir. C'est l'effort de trop. Regardez ce que lui dit Jordan. Il était déjà en déséquilibre. Il a fait vraiment tout l'effort de pas se laisser avoir sur le close-out. Azuga, et puis il en fait un petit peu trop.
Mais à sa décharge, hein, il perd ses appuis.
Ah oui, c'est bien, c'est, voilà. c'est peut-être ça. Mais le bras, oui, bon.
C'est léger.
Je suis désolé, mais c'est faute. Et en plus, ce que dit Malik, quelque part, c'est facile pour moi de le commenter d'ici. Il y a tellement de choses qui arrivent sur le terrain. Donc oui, tout à fait, vous avez raison.
Vous avez fait deux sur de Bouyamba un petit peu plus tard dans cette rencontre. Bon, chaque possession va compter maintenant.
Oh oui.
On pourrait presque avoir pas un buzzer beater, mais un shoot à 3 points à la dernière seconde qui donnerait, admettons, seulement 10 points ou 9 points ou 8 points d'avance au Petro de Luanda qui changerait tout.
Regardez, on prend confiance. Oui, bien sûr.
C'est exactement ce que Mohamed Oufrit sur le temps mort a dit à ses joueurs, l'assistant coach de El Bouzidi.
Qu'est-ce qu'il nous fait, Azuga?
El Awa. Oh, bien joué, bonne défense de Pedro encore une fois.
Trop loin dans cette raquette, pardon. On rentre véritablement dans les bras du défenseur. Il est plus grand, il est plus lourd.
Et d'ailleurs, il va être puni là parce que Ken Brown, ça peut être un revenu.
Et Nui qui est toujours vissé.
Oh là là là, la tartine
de Diarra.
Il l'a attendu à son aise en bas.
Jordan.
Mais pourquoi il joue?
Oh, ah, la faute offensive qui n'est pas sifflée. Et Azuga,
c'est pas son jeu, Azuga.
Et c'est pas ça va bien. Pour Jordan.
Aïe, un blessé. Il s'est fait mal.
C'est Aliou Diarra qui est touché.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est en retombant sur les appuis d'un adversaire.
Alors, je suis pas sûr que ce soit à la cheville. Je me pose la question. On va pouvoir regarder comment il l'attend à la raquette, dans la raquette. Oh là là, ouais. Là, il va vraiment le chercher tout en haut. Il n'y a rien à dire.
Aliou Diarra qui s'en prend un peu à Johnny Pedro, mais bon.
Non, il lui reproche un coup de coude, en fait, involontaire. Il s'en prend pas vraiment. Ils discutent tous les deux. 8 points, 7 rebonds, 4 contre, on trouve qu'il n'est pas vraiment dans le coup.
Mais c'est la deuxième mi-temps où il a commencé à avoir un peu d'action. Ah voyez, on a un super replay là.
Ah, c'est le visage.
Non, les côtes. Les côtes,
et il y a aussi le visage. Qui est
avec la tête.
Ouais, exactement, l'arrière de la tête. Mais aussi là sur le parquet.
Pedro a fait un travail au Boxina qui a toujours été très agressif pendant tout le match. C'est comme ça justement qu'il s'est permis, qu'il a trouvé une solution pour éliminer Aliou Diarra du rebond. C'est là qui monte quand même, avec 3 minutes de jeu, quand l'équipe est à moins 12, encore un moment charnière pour lui.
Julie Pedro, 10 secondes sur la possession. Nelson.
Ah, ils ont une bonne différence.
Gonçalves, à 3 points, pour qui le rebond? Dundao, bien entendu,
pour le plus combatif. Et il joue bien avec le temps. On va jouer le pick and roll, on a eu beaucoup de pick and roll.
Ouais. L'écran de Julie Pedro.
Oh, c'était même pas un écran, c'était un fauchage.
Ouais, il est arrivé un peu derrière.
Mais je crois qu'il a voulu le feinter, j'ai l'impression qu'il a fait il a eu le jeu de jambe pour le feinter, c'est en tout cas ce que j'ai vu d'ici.
C'est allé vite.
Et voilà, en voyant tous les écrans, ouais, il est en retard. En voyant tous ces écrans, sur cette fameuse zone, je trouve que le Fus ne joue jamais écran sur le ballon. Même contre une zone, vous pouvez jouer écran sur le ballon pour créer un avantage. J'en ai pas vu beaucoup, voire suffisamment.
Stéphane Delmine pour Ken Brown.
Ouais, bien coupé.
Et Azouga qui va ressortir. John Jordan à 3 points.
Oh, il fait
à
mal.
3 points, ça change
oh,
tout.
Oui. Oh, oui.
Score, ça change tout.
Oh, qui fait du mal.
Cet écart de 9 points. Égalité parfaite au niveau des deux matchs. Ça change absolument tout.
Exactement. Et regardez le banc du FUS qui monte sur le terrain. Et il a pris son temps, Jordan. Il savait que c'était un moment important. Il n'y avait personne sur lui. La pénétration qui fait le boulot.
Ils sont à 4 sur 18 regardez, derrière l'arc.
Azouga qui avait fait tout le boulot. On leur a pu lui demander de monter, mais il a été logique.
Match, Azouga, encore,
oui.
Hein.
Oui, oui, il fait son match. Il a été intelligent parce que c'est pas sa force d'aller jouer contre des big men comme ça de face à face.
84-75. On rappelle qu'il y avait eu 92-73 lors du premier match. Et que maintenant, chaque ballon, chaque panier inscrit, chaque lancé inscrit pourrait faire énormément de différence au niveau du classement final de cette conférence.
Ah, ils y ont cru jusqu'au bout le FUS, et ils se sont remis exactement dedans.
On rappelle que les deux équipes joueront un dernier match contre les Cape Town Tigers. Bien sûr, si les Tigers gagnent un match sur les deux ou gagnent les deux matchs, ça pourrait changer des choses. Mais dans l'éventualité que les deux équipes gagnent tout jusqu'au bout, aujourd'hui, eh ben, il faudrait prendre le différentiel de points. Et là, on ne va pas sortir les calculatrices, Jacques.
Parce on l'a déjà fait.
Et justement, le coach Neto vient de rappeler à ses joueurs qui sont à égalité parfaite sur les deux matchs.
Waouh! Ça aurait été vraiment deux matchs exceptionnels. Regardez Kendrick Brown qui s'est très très bien réveillé dans ce match. Il est à 12 points à 5 sur 6. Bien sûr, Jordan qui n'avait pas encore marqué à la première mi-temps, qui fait le boulot qu'on attendait de lui. Ali Udera aussi qui s'est réveillé. Et en quelques minutes, tout recommence à exploser. Dès que vous commencez à mettre vos 3 points, bien sûr que vous avez une opportunité.
Bon, je vais vous poser la question qui fâche. Est-ce qu'on ne mettrait pas un peu d'expérience en faisant revenir Moraes?
Ouais, pourquoi pas, honnêtement. Mais il n'est pas dans un grand soir, il est gêné au genou, rappelons-le.
Ouais, au moins pour garder le ballon.
Bonne défense, Benmin sur Dundao. Regardez cette défense en boîte, en 1 contre 1. Ah, Nelson, il était bon.
Jackson Gonçalves à 3 points, toujours pas Gakou, rebond. Deuxième chance, non, c'est Diarra qui récupère le ballon. Oh, attention, il a sauvé le ballon. Oh, le miracle, non, finalement, non.
Oh là 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 là, ça fait du mal de perdre des ballons comme ça. Et Azouga qui s'en sort bien parce qu'il n'est pas concentré sur les boxing out.
Jacques, je suis pas d'accord. C'est la passe de Diarra qui est pas du tout bonne.
Non, je parlais du rebond. Je parlais du rebond.
Ah ok, autant
pour moi. Je parlais du rebond.
Parce que Diarra, il a eu une sorte de concentration. Là.
Ah oui, maintenant avec le stress.
Si jamais on en reste à cet écart de 9 points, sachez qu'au différentiel, le FUS est largement devant grâce à son gros blowout il y a quelques jours contre les Tigers. Petite précision.
Voilà, tension au niveau de la défense. On va revenir sur ces pick and roll, sûrement Nelson Pedro.
Nelson, le crossover de Nelson qui va aller.
Oh là là, ça fait mal, oh c'est un bon offensif. Alors personne n'avait sécurisé le ballon.
On demande 14 secondes côté Petro, mais.
Et Jordan qui regarde Azouga et qui lui parle des rebonds et qui lui dit il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut plonger sur tous ces ballons, mais. Et Azouga il fait vraiment face à des poids lourds là. Hein.
Quel match on est en train de vivre en tout cas.
Et Sofiane Benmin et Tilde Dundao s'échangent des amabilités.
C'est la moindre des choses.
Gonçalves qui est passé face à Jordan.
Oh, Azouga, oh là 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 là. Mais ils ont tous les ballons. Ils ont tous les ballons pour l'instant.
Et rebond, et le ballon va être pour le Petro. Il va rester une seule petite seconde.
Et tous les ballons 50-50 pour l'instant tombent à l'avantage du Petro.
C'est vrai, Mali, vous avez totalement raison. Et il tombait pour le FUS lors du match.
Ouais, exactement. Là, ça fait au moins 30-45 secondes qu'on est dessus.
Il a pas l'air serein. Saïd El Bouzidi.
Il faut jouer le lob.
Dundao à 3 points. Et fin de la possession. Ballon rendu au FUS. Il va rester.
Et regardez. Et ben voilà. Sofiane Benmin qui est encore allé parler à Tilde Dundao et qui se prend une faute technique.
C'est incroyable ces joueurs. C'est incroyable. Gardez son calme, messieurs. Alors, il fait bien tout le boulot. Il marque pas son shot. Vous avez le ballon. Vous avez votre opportunité. Ben non, vous allez jouer avec la chance.
Ouais, on lui j'ai l'impression que du côté du FUS, on lui reproche encore une fois de flopper à Achille Dundao.
Je suis d'accord, mais il n'avait pas sur la faute. Hein,
Donc,
Dundao, moi je trouve qu'il fait justement l'effort de ne pas râler et là on lui redonne le ballon.
Et ça pourrait tout changer parce que c'est un lancer offert à un moment où on est en train de faire nos petits comptes d'apothicaire.
Un sou est un sou.
Ah, ça c'est sûr.
Ouais, Azuga qui regarde pas l'anneau du tout.
Ogan Brown qui a fait sortir en jump shot.
Il est en jump shot, il fait mal Jordan Hill. En jump shot, il prend un sacré.
Et le banc qui célèbre ce tir.
Le FUS est repassé devant. En termes de classement, bien sûr, pas au score ce soir.
C'est maintenant qu'on va voir les vraies défenses et c'est là qu'on voit les vrais joueurs de basket.
Dernière minute de cette rencontre. Nelson,
bonne défense.
Contré par Benmin. Oh, le momentum a changé de camp.
Allez, Jordan veut le ballon, il est en vitesse là. Avant que la défense soit posée, il a raison, Ken Brown.
Ken Brown,
oh la passe. C'est dommage, c'est dommage.
12 secondes. Jordan. Benmin. Azuga à 3 points pour faire mal.
Oh, le tournoi est en finale.
Il n'y a plus que 4 points d'écart. Oh, ils ont été résilients, les Marocains.
Et Azuga qui voulait pas regarder l'anneau, mais il se retrouve dans son petit coin qu'il aime. Le shot à 3 points, et voilà le momentum. On l'a dit, ces deux équipes en veulent de part et d'autre.
Ils étaient menés de 22 points, il n'y a plus que 4 longueurs d'écart. Et là, ça change tout. Quel scénario dans cette conférence à Kalahari, pardon.
Ah, ça s'est joué à rien. Ils ont commencé à trouver des solutions pour faire exploser cette défense. Et puis, je trouve que de l'autre côté, ça fait maintenant 3-4 minutes du côté des Angolais qu'on ralentit le jeu, qu'on joue plus avec le ballon, qu'on joue plus sans ballon. Et en fin de compte, au goutte à goutte, on se fait rattraper.
Et attention, parce que ça pourrait tout changer maintenant. Est-ce que le FUS peut aller chercher cette victoire et du coup essayer d'avoir un meilleur classement final sur l'ensemble des conférences? C'est ça l'enjeu du match pour le FUS, pour le Petro, repasser au-dessus de la barre de ses 9 points. Bien sûr, Dundao aura été l'un des immenses bonhommes côté Petro.
Regardez son pourcentage de shot à 3 points, 57%, 24 points. Alors Dundao, il n'a pas spécialement besoin de marquer énormément.
Une seule passe décisive, c'est presque le plus surprenant.
Oui, c'est vrai, mais il était qu'à 3 sur 13, si je ne me trompe pas, à 3 points lors de la première mi-temps.
Ils étaient
3 sur 13 ou 3 sur 11. Regardez ces belles actions et il a trouvé le chemin du panier. Et c'était à ce moment-là que les Angolais jouaient le mieux. C'est quand il avait le ballon en main qu'il était agressif. Et là, aussi quelque chose qui a explosé dans la dernière minute, c'est qu'on permet au FUS de commencer à courir. Et ils sont mortels quand ils courent.
Qu'est-ce que ça va vite en tout cas le basket. Il reste 30 secondes dans cette rencontre. Et très très clairement, le momentum a changé de camp.
Alors 30 secondes, il faut bien les gérer. Il faut les gérer comme si on était à égalité du côté du Petro. Sûrement aller prendre le shot rapide parce que vous avez plus que 30 secondes et puis après voir même comment entamer un jeu de faute.
Il n'y aura pas le choix de toute façon.
Oh, il fait pas la passe à Dundao. Eh bien écoutez, ils vont jouer la victoire tout simplement et non le goal average.
Maurice, à 100 points.
Oh. Avec la planche.
Avec la planche, c'est pas la cette conférence. Jordan, Azuga qui
va. Ah ben voilà la réponse.
5 points d'écart. Dundao.
Oh la trappe.
Oh,
ouais, mais il joue de trop.
Et le ballon est dehors, je crois. Non, c'est une faute qui est sifflée. Oh, Benmin qui s'en veut.
Oh, ils s'en sortent bien, mais regardez ce shot à 3 points. Alors il y avait quand même la main qui était sur la hanche de Moraïs qui aurait pu être sifflé sur faute. Ça aurait été 3 points pour un lancer franc.
Et ça donne des lancers derrière. Achille Dundao. Quel coquin le Moraïs, parce que clairement ce shoot là, quand il a vu partir, il a dû se dire oulala.
Ils étaient dans une... Alors il y a le 3 points qui tombe dedans, mais regardez ce qui se passe juste après. Pas de transition défensive. Et on sait que le FUS adore courir.
Attention, parce que regardez, il reste 5 secondes. Si les lancers francs sont inscrits, il restera 5 secondes derrière. Si une faute est faite rapidement, le jeu des lancers francs peut changer là.
C'est pas
le moment pour Tilde Dundao.
Bah, il a continué de chambrer Azuga. Il est sorti un peu de sa concentration.
Il avait fait 2 sur 2 aujourd'hui sur la ligne.
Et temps mort à suivre si ce lancer franc est inscrit pour Fus.
Et on entend les MVP dans la salle, mais il sera pas loin d'être MVP de la rencontre, c'est sûr. Il fait un sur deux. Temps mort, évidemment, demandé par Saïd El Bouzidi. 6 points d'écart. Imaginez si le Fus perd le ballon.
Écoutez, là, sur les 5 dernières secondes, et je vais vous dire, dans ces conditions-ci, le Fus a un gros avantage. Parce qu'ils ont des porteurs de ballon, ils ont la taille, ils ont l'explosivité, ils peuvent jouer avec les trois petits. Donc là, maintenant, ce fameux trio de petits peut être très, très intéressant. Parce que vous savez pas à quel joueur vous avez. Et tous les trois peuvent s'exprimer au lancer franc. Donc là, il y a peut-être un avantage. Maintenant, il faudra voir la pression qu'on va faire. Comment est-ce qu'on va faire pour les arrêter? Je peux vous dire qu'il y a quand même de l'énergie.
Le scénario est quand même compliqué pour le Petro de Luanda. Nous n'enflammons pas non plus parce qu'il faudrait faire faute très rapidement. Espérer que les lancers francs, qu'aucun des lancers francs soit marqué. Ensuite, prendre un shoot sur le temps qu'il restera.
Alors,
c'est pas mission impossible.
Je suis tout à fait d'accord avec Wojtek. Oui, j'ai allé plus loin. Si on est en faute, on a déjà rappelé dans le match. Il faut qu'on soit dans l'interception. Il n'y a que ça en fait. Réellement, comme vous venez de le dire, parce que vous avez raison par rapport à votre accélération, regardez le 3 points. S'ils attendent de faire la faute, quelque part, ils sont déjà un petit peu sortis. Il faut plonger et tenter les interceptions. Ça va être compliqué, la réalité c'est qu'il faut le faire.
Parce qu'après il y aura 5 secondes pour remonter le ballon.
Ah oui, mais il faut qu'ils y aillent là, le Petro, ils ont pas d'autre chose, il faut piquer le ballon, il faut y aller.
Si jamais ce scénario se produit, Jacques, je risque peut-être de crier un peu.
Écoutez-moi, commencez déjà à créer l'espace. Ah non, ils vont rester. Attendez. Je suis étonné, regardez. Ou bien, attention, peut-être qu'ils ont déjà ciblé la personne à qui ils veulent faire la faute. Ou ils vont juste prendre
Jordan.
La
faute. 3 secondes, il a le temps de shooter.
Et il a le temps
de tuer le match. Même si bien sûr c'est le Petro qui va l'emporter, 89-86. Mais le Fus risque grandement d'être le champion de cette conférence. Pour cela, il faudra battre les Tigers lors du dernier match. Ils avaient 24 points de retard à un moment donné du match. 22 points, pardon. Ils ne perdent que 2-3. Ce n'est pas vraiment un comeback, mais en tout cas, ça en a tout l'air.
Oui, dans une situation de tournoi, c'est un comeback parce qu'il y a le fameux goal average. Mais fantastique, ces deux équipes qui mènent, les changements stratégiques, les changements de momentum qui nous ont été offerts aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait magnifique de pouvoir les voir qui gagnent encore s'affronter, parce que je pense qu'il y a encore des adaptations qui pourraient être faites.
On s'est régalé depuis le début de cette rencontre, évidemment. Le Petro de Luanda qui aura livré une belle partie, qui aura réagi, au moins on a vraiment vu le vrai Petro de Luanda sur cette rencontre.
On a vu un Petro de Luanda qui était rageur, revanchard, actif, et puis on a vu aussi des adaptations au niveau du coaching.
Et on a beaucoup parlé d'Undao et de Benmin, il y a une belle image là qui vient d'arriver, les deux se sont pris dans les bras. C'est aussi ça l'énergie d'un match, on se trash talk, on se met des coups, mais bien entendu à la fin, on est tous amis et on va écouter Aboubakar Gakou à votre micro, Malik.
Aboubakar Gakou, félicitations, vous avez gagné. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient la victoire ce soir ou on retient le problème de goal average qui fait que le Fus reste pour l'instant en tête?
Premièrement, on doit se concentrer dans la victoire. C'était une bonne victoire pour nous. On avait besoin de ça. Donc on a gagné, mais malheureusement, on n'a pas gagné plus de 9 points parce qu'on a perdu de 9 la dernière fois. Aujourd'hui, on a gagné presque de 3, je crois. Donc, c'est la victoire. On a gagné.
Donc. Alors, aujourd'hui, on a retrouvé, avec 21 points, le vrai Aboubakar Gakou. Personnellement, comment vous êtes rentré dans ce match?
Et comme j'avais dit la dernière fois, le premier match, on n'était pas très concentré parce que ils ont venu ici, ils nous ont frappé. Donc, aujourd'hui, on est venu concentré. Donc, c'est ça. On est venu avec la force et on a gagné ça.
Alors, est-ce que à plus 22, vous n'êtes pas dit ça y est, c'est gagné et vous avez un peu baissé les bras?
Oui, on a baissé les bras malheureusement. Donc, c'est pas bon pour nous, mais c'est la victoire. On doit se concentrer à ça. Malheureusement, on n'a pas gagné plus de 9 points.
Bon, félicitations, vous avez gagné quand même. Merci beaucoup.
Un petit coup d'œil sur les stats. Le 7 sur 21, ils auront totalement changé le cours du match grâce à ces shoots à 3 points en fin de match. Ils n'ont quasiment, quasiment jamais rien mis. Et finalement, là, c'est ça qui fait la différence.
Oui, oui, ils sont finalement sortis du trou avec le 721. L'équipe angolaise n'a pas mieux shoté, 924. Et je trouve que c'est vraiment le dernier carton quand ils ont commencé à pouvoir attaquer dans la raquette, à pouvoir créer leur jeu, à courir en contre-attaque. Et ils sont tellement. Leur vitesse de contre-attaque est exceptionnelle.
Ça a été un moment vraiment immense dans cette conférence, dans ce début de saison 4 de la Basketball Africa League. On aura très probablement un FUS leader de cette conférence, champion de cette conférence. Pour cela, je le disais un peu plus tôt, il va falloir battre les Cape Town Tigers, qui ont peut-être un dernier défi dans cette conférence, celui de pouvoir peut-être être une sorte de l'équipe qui peut
de poil à gratter,
exactement, qui peut désorienter tout le monde.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la finalité de ça, c'est qu'on a eu encore une fois un superbe match entre les deux équipes.
En tout cas, voici ce dont on parlait à l'instant. Ces différentes rencontres qui nous restent, ce sera bien sûr pas demain mais dans deux jours, samedi puis dimanche. Les Tigers jouent donc contre d'abord le Petro puis contre le FUS de Rabat. Si bien sûr les Tigers l'emportent contre le Petro du Luanda, le classement sera figé.
Oui, ça va être... Voilà, les Cape Town Tigers ne sont pas vraiment encore trouvés pour l'instant, mais on ne sait jamais, vous savez, tout peut arriver dans ce genre de tournoi. Les deux équipes, en tout cas, seront prêtes, le FUS ainsi que le Petro, pour aller pousser encore une fois les Cape Town Tigers à leurs limites.
En tout cas, c'était un match épique dont on se souviendra, on se rappellera longtemps de ces deux matchs entre le Petro de Luanda et le FUS de Rabat. Messieurs, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui, on s'est régalé.
Merci donc à Malik Dao, du côté bien sûr de Fréteré, à qui on fait un coucou. Merci à tous ces commentateurs-là, de vrais amis chèques. Yeah. En tout cas, on a vu un match très plaisant, un match avec beaucoup d'intensité, où beaucoup de choses se sont décidées à la dernière minute, beaucoup de changements.
Absolument.
Qui ont permis aux Marocains, surtout de FUS de là-bas, même s'ils ont perdu 86-89 devant le Petro de Luanda, on se disait, s'il y avait une minute de plus dans cette rencontre, eh bien, les Marocains pourraient renverser la situation. En tout cas, on retient tout simplement que ce fut un beau match.
Absolument, Yacouba. C'était vraiment compétitif à la dernière minute que nous avons vu. Et ça veut dire que le niveau de compétition est élevé, Yacouba. Ouais. Parce que malgré que l'équipe angolaise était tellement décidée de gagner ce match-là, mais le moment que l'équipe marocaine voulait vraiment amener ça en haut, c'était trop tard pour vraiment emporter.
Ils ont élevé le niveau du jeu un peu plus tardivement.
Absolument. Et on a vu comment ils étaient décidés. Pendant 4 minutes, ils avaient le contrôle du match. Et tout à fait. Et qu'on a vu avec l'équipe. Mais quand tu vois vraiment une équipe angolaise qui vient vraiment de se racheter, comme on disait au début, ça fait bien au cœur Yacouba. Il mérite cette victoire vraiment.
Alors, je donne quelques statistiques avant de me tourner vers Nanit. 18 points pour Jonathan Jordan du côté de FUS de Rabat. 25 points pour Childe Dundao, le meneur de cette équipe angolaise là, suivi de Aboubakar Gakou, 21 points. Et puis du côté bien sûr de FUS, on n'a pas beaucoup vu Aliou Diarra. Il a été verroué parce que justement, les Angolais ont compris que c'est ce monsieur-là qu'il faut arrêter, Nanit.
Effectivement, en fait, c'est ça la malchance. Hein. Quand on est le pivot de son équipe et que les adversaires veulent vous bloquer, ben c'est à vous qu'on va s'en prendre. C'est ce qui est arrivé
à Aliou Diarra.
Aliou Diarra. Mais il a quand même contribué. Il a marqué un point que j'ai très beaucoup aimé parce qu'il est resté accroché sur le panier.
Ah oui, les dunks avec lui, c'est monnaie courante, quoi, comme on le dit.
Non, franchement.
C'est ça même qui me réveille dans le match, Yacouba.
C'était vraiment spectaculaire.
Tu peux être endormi au stade, Aliou va te réveiller.
Absolument. Oui, oui. Alors que
Parce que tu vas entendre écrire, wow. Ouais.
Alors que Yacouba, c'est parmi les joueurs qui sont minces, hein. Il n'a pas une carrure imposante. Ouais. Mais quand il s'agit de marquer, il le fait très, très bien. Mais comme vous l'avez dit, je sais pas pourquoi, les Marocains, ils ont attendu la dernière minute pour se réveiller. Mais sinon, ils auraient pu gagner même facilement ce match.
Alors, Nanit, je reste avec toi. Il y avait 24 points d'écart entre les deux équipes à un moment donné. Les Marocains ont tout fait pour amener ça à seulement 3 petits points d'écart.
Points.
C'était quoi l'enjeu?
Bon, en fait, comme à l'aller, eux, ils avaient gagné de 9 points. Donc, il fallait
les Marocains avaient gagné avec
9 points d'écart. Donc, il fallait ici à tout prix qu'ils réduisent l'écart. Parce qu'en cas d'égalité, ils vont voir qui a marqué le plus de points, qui a encaissé le plus de points. Et là, je pense que les Marocains pourront peut-être avoir plus de chances d'être devant
les Angolais.
Les Angolais, quoi.
Et justement, au classement, en tout cas, ça reste figé. FUS reste devant, parce qu'ils ont encaissé moins de points. En fait, il y a moins d'écart, bien sûr, par rapport à leur match contre Petro. Alors, Cheikh, désormais, c'est trois matchs, parce que Dynamo Basketball Club est out. Donc, trois matchs pour Fus de Rabat, deux victoires. Trois matchs pour Petro de Luanda, deux victoires. C'est-à-dire que c'est la tête de cette conférence Kalahari là, qui va se jouer entre les deux formations, la marocaine et angolaise.
Absolument, Yacouba, ils ont leur ticket, comme on peut dire.
Ah oui, justement, ils sont sûrs d'être qualifiés.
Ils sont qualifiés pour les playoffs. Mais à voir que il y a beaucoup de leçons à tirer à travers ce match-là qu'on a vu.
Oui, oui.
Et nous avons vu qu'il y a la fatigue, Yacouba. Oui. La fatigue se sent dans les équipes, surtout l'équipe Pedro. Et comme tu l'as bien dit, si ça, on a ajouté une minute seulement, ça allait être un autre différent résultat. Et moi, quand même, je pense que les deux équipes ont mieux le maillot, mais c'est une victoire très méritée de Pedro, comme on a
Se devait de revenir, parce que comme on le dit souvent, c'est une équipe qui est toujours attendue. Toujours finaliste en 2022, on se rappelle.
Absolument.
Mais qui n'arrivait pas à convaincre l'année passée, qui a été sortie.
Absolument.
Et comme on l'a dit, en termes d'âge aussi, ce n'est pas négatif, mais il y a des joueurs quand même qui sont un peu très âgés dans cette équipe-là.
Absolument.
Quand tu prends un Carlos qui a 38 ans.
Oui. C'est beaucoup.
Donc, ça veut dire
qu'il y a peut-être que
il y a certains sont en train de jouer leur dernière saison en Basketball Africa League. Donc,
absolument.
Il faut tout donner.
Absolument. Yacou, moi, je vais mentionner un point qui va être très intéressant parce que tout le monde est en train de regarder.
Bien évidemment.
Tout le monde. Danit. Tout le monde, toute l'Afrique, la jeunesse, tous les jeunes qui rêvent.
Non, franchement, ouais. les deux équipes ont montré un niveau de basket, mais vraiment
élevé. Ça n'a rien à voir avec la NBA. Hein. Je vais dire, ils n'ont rien envié peut-être à la NBA.
Non.
Il y a tellement de préparations maintenant qui montrent que ça you know, chaque fois qu'on envoie les nouvelles équipes, c'est comme ça. Et il vient avec une allure comme ils ont faim, Yacouba.
Mm-hmm.
Nous avons vu ça avec Rabat, nous avons vu ça avec Dynamo.
Si Dynamo était out, après, il faut reconnaître que le premier match, ils ont montré quelque chose de grave.
Absolument.
Et puis, la preuve en est que les deux équipes ont des Américains qui jouent. Hein. Des vrais Américains, ce n'est pas des gens qui ont eu la nationalité, mais des gens qui sont nés aux États-Unis, qui sont de parents américains, mais qui jouent dans ces équipes.
Yeah.
Or, on sait que si c'était des équipes qui avaient un faible niveau de basketball, on ne voit pas comment quatre Américains allaient quitter les États-Unis pour aller jouer. Donc, ils ont un niveau très impressionnant du basketball.
On profite justement pour rappeler que la Basketball Africa League permet à chaque équipe de recruter minimum deux joueurs hors le continent.
Je pense que toutes les équipes ont
Le plus souvent, ils se rabattent sur des joueurs américains qui apportent leur expérience quand même.
Absolument. Même l'équipe angolaise aussi a des joueurs américains.
Bien évidemment. Ils en ont deux.
C'est une manière de recrutement, Yacouba, qui est permis dans la Basketball Africa League. Et d'ailleurs, apparemment, je ne connais pas les chiffres, les nombres exacts, Yacouba, mais la NBA, quand il est qualifié, il aide à préparer le tournoi. Il était à préparer le tournant. Et tout ce que moi, quand même, je veux dire, l'Afrique est en train de regarder. Surtout la jeunesse qui vit de 10 ans, Yacouba, à 20 ans. Les talents africains, ça va venir. On va voir de plus en plus de talents. Ce tournant-là va permettre de faire sortir beaucoup de talents. Et regardez le petit soudanais de Malakouche qui vient de jouer avec les Douks. Et Soudan, surtout Soudan, Yacouba. Ne vous soyez pas surpris si nous voyons une équipe soudanaise. Parce que nous avons vu le holding en train de faire beaucoup de choses là-bas. Et puis, il y a Libye.
On va avoir
une équipe libyenne cette année.
Yann Miami, le Béninois.
Absolument. On va avoir une équipe de la Libye cette année, Yacouba. Ça n'est jamais vu dans le basket comme ça, à ce niveau. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plus de talent. Les gens sont en train de regarder. Même les conférences qui ne sont pas commencées maintenant, Sahara, Cairo, Lille, et tous, ils sont tous en train de regarder ces équipes, en train de prendre les analyses. Et ça va être quelque chose, Yacouba. Ça ne va pas être une histoire très facile pour une équipe d'apporter.
Il reste deux matchs à jouer. Samedi, déjà, entre Petro et justement les Cape Town Tigers. Et puis ensuite, dimanche, entre Fus et toujours les Cape Town Tigers. On sait que les Sud-Africains n'ont pas encore gagné jusqu'ici. Ils ont deux matchs à jouer à domicile pour terminer en beauté et aussi espérer accrocher l'une des deux meilleures places de troisième qu'on va repêcher, disons, pour les playoffs à Kigali. Selon vous, je ne sais pas si je commence par Nanit ou bien par Cheikh, peut-être Nanit, on est
refaire. Pas de problème. Les femmes d'abord, Nanit, vas-y.
Alors, Nanit, les Sud-Africains doivent jouer justement contre ces deux formations de ce soir-là qui ont montré un basketball de haut niveau. On sait que cette équipe sud-africaine, elle n'est pas très collective. Est-ce qu'il peut y avoir espoir pour les Sud-Africains de se qualifier?
En matière de sport, je dis tout sport confondu. Moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas de petite équipe. Parce que s'ils sont déjà arrivés à ce point d'être qualifiés pour jouer contre les soi-disant grandes équipes, ça veut dire que ce n'est pas une petite équipe.
Les underdogs de Chèque.
Exactement. Parce que c'est quand on sous-estime l'adversaire qu'on peut perdre. Ouais. Donc l'adversaire, on ne le sous-estime jamais. Il faut se dire que s'il arrivait là, c'est parce qu'il a les capacités, il a les moyens de gagner. Parce que même ces équipes qui aujourd'hui ont montré ce niveau, elles n'ont toujours pas été comme ça.
Bien sûr.
Elles ont d'abord été des petites équipes qui évoluer jusqu'à arriver ici. Et de même, on a vu des grandes équipes qui aujourd'hui ne sont devenues que l'ombre d'elles-mêmes. Oui. Ces équipes ont perdu.
Absolument.
Donc c'est pourquoi il faut maintenir le niveau, il ne faut pas sous-estimer les adversaires.
Justement, on a vu cette équipe de Pedro lors du match d'ouverture face à cette même équipe marocaine de FUS. Mm-hmm. On avait comme l'impression que quelque chose était cassé depuis les playoffs l'année dernière. Mm-hmm. Et ça s'est ressenti mm-hmm. lors de leur premier match. Mm-hmm. Est-ce que ce soir, on peut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette équipe angolaise?
Je pense que quelque chose a changé, Yacouba, mais il faut être consistant. Il faut être, et comme on l'a dit, c'est les OG du basket africain qui connaît ils voient comment même ils jouent ensemble, ils connaissent ça, ils ont un jeu collectif très très soudé. Mais comme je te l'ai bel et bien dit, Yacouba, c'est pas ça seulement qui compte beaucoup dans le sport. Il faut aussi avoir la vivacité, la rapidité sur le terrain, c'est-à-dire l'énergie de la jeunesse sur le
et
terrain.
Et surtout marquer.
Marquer, absolument.
Il faut mettre les balles.
Et surtout marquer.
Il faut mettre les balles dans le panier.
Et puis, quand ils ne marquent pas, on a vu ça avec eux. Les 4 dernières minutes de ce match, ils ont à peine marqué un point jusqu'à ce que Maurice a fait un 3 points qui a dit, que c'était fini le match maintenant. Sinon, avant ça, l'équipe avait toujours de l'espoir qu'ils allaient gagner. Et ils ont perdu seulement le 3 points. Regarde, si Maurice n'avait pas mis ces 3 points-là, ça allait être une parité.
Ça allait être une parité.
Donc, ça montre que vraiment l'équipe a amélioré, mais ils ont besoin de plus.
Voilà. Toutes les équipes ont besoin de plus. Je rappelle qu'il reste encore 2 matchs à suivre dans cette conférence à Kalahari. Samedi, déjà entre Petro de Luanda et Cape Town Tigers. Et puis dimanche, la boucle de la boucle, bien sûr. En toujours les hôtes de Cape Town Tigers et Marocains de FUS. Yacouba Ouidraogo, Cheikh Thiro, merci. Nani Talani, merci. Merci à Timothée Donamay qui était ici en temps. Merci à Ali, merci à Sims Lumami. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.